BFM TV, Julie jusqu'à minuit, Julie Hamet.
Bonsoir à tous, bienvenue, on est ensemble et en direct jusqu'à minuit. Évidemment, on débriefe ce soir cet entretien d'Emmanuel Macron au JT de 20h avec Charles Consigny. Bonsoir Charles.
Bonsoir.
Avec Nicolas Tenzer. Bonsoir à
bonsoir.
Vous. Bonsoir. Professeur de géostratégie à Sciences Po et auteur de Notre guerre aux éditions de l'Observatoire. Bienvenue à vous. On est avec Néla Latrousse, chef du service politique de BFM TV. Bonsoir. Néla, on est avec Christophe Barbier. Bonsoir Christophe.
Bonsoir Julie, bonsoir.
Avec le général Jérôme Pélisse-Trandy et avec Anne-Elisabeth Moutet. Bonsoir à tous les six. Évidemment, on débriefe donc cet entretien d'Emmanuel Macron à l'occasion des commémorations du débarquement. Un entretien très attendu, très contesté aussi. Trois jours des élections européennes. Premier rapide tour de table. Que retenez-vous chacun de cet entretien d'Emmanuel Macron, de ces 30 minutes d'entretien? On commence par vous, Charles.
Écoutez, ce que j'en retiens, c'est qu'Emmanuel Macron assume le fait qu'il prend part à la campagne des européennes, d'abord. Et moi, je pense que c'est démocratiquement contestable et qu'il se serait honoré à se refuser de parler de cette campagne. Je pense que son interview aurait quand même eu un impact sur le score de sa candidate, que ça aurait quand même parlé aux électeurs ou électeurs potentiels de sa candidate, mais que il se serait tenu à distance du débat démocratique des européennes, dans lequel évidemment les concurrents de Madame Hayé n'ont pas le même temps de parole que le président de la République à 20h sur deux chaînes de télévision en même temps, un jour de commémoration du 6 juin 44. Donc je trouve que il a manqué une occasion de se taire sur ce sujet-là.
L'Arcom qui s'est voulu rassurante quand même en disant que ce sera décompté du temps de parole, comme il se doit, comme le discours de la Sorbonne.
Oui, mais
bref, bon, on y reviendra.
Voilà. Non, mais c'est le minimum. Et l'Arcom d'ailleurs ne fait ça que parce qu'elle a été saisie par ses concurrents. Pour le reste, je l'ai trouvé, sauf erreur, un peu plus mesuré dans son interview que dans son discours. J'ai vu aussi des extraits d'un discours où il était plus va-t-en-guerre sur le sujet russe. Là, je l'ai trouvé un peu plus calme et je trouve ça bien.
Un peu plus calme, mais Nicolas Tenzer, il annonce quand même quelque chose d'important, la cession de Mirage 2000-5.
Oui, ça c'est évidemment l'aspect essentiel parce que l'on sait parfaitement que pour gagner cette guerre contre la Russie, pour défaire de manière radicale la Russie, faire gagner l'Ukraine, il est absolument indispensable d'avoir en nombre suffisant des avions de chasse. C'est la seule manière de frapper le dispositif russe dans l'arrière, de désorganiser les troupes russes, de désorganiser l'approvisionnement de ces troupes. Donc c'est absolument déterminant. Et on sait d'ailleurs que à partir du moment où nous y allons, et je pense qu'aujourd'hui, on a quand même des signes qui ne sont que les premiers signes d'un engagement plus fort des alliés dans cette guerre, il faudra probablement aller encore beaucoup plus loin si l'on souhaite complètement gagner. Je pense qu'aujourd'hui, nous sommes, et je comprends la prudence, moi je dirais plutôt la prudence du président de la République, qui à la fois a déplacé les lignes rouges, et c'est très bien, n'achète plus ces lignes de la part de, enfin de la rue, venant de la Russie, mais je dirais, il n'est que dans une première étape.
Il faut aller encore plus loin, dites-vous,
écoutez,
et on y reviendra.
Oui, voilà, exactement, je termine peut-être un point, et c'est un moment quand même solennel, je veux dire, on fête quand même les 80 ans du débarquement, donc quand même le chef de l'État a pointé deux dangers, qui sont des dangers mortels, la Russie d'un côté, d'autre part l'extrême droite, et d'une certaine manière, il y a une convergence entre les deux.
Néla Latrousse. Qu'est-ce que vous retenez-vous de cet entretien ?
Ce que j'en retiens, c'est deux phrases, l'une au tout début de son propos. Parler des Européennes, c'est mon rôle à la hauteur du président. Donc, de ce point de vue-là, oui, Emmanuel Macron annonce d'entrée de jeu qu'il s'implique dans la campagne, dans le rôle qui est le sien, et la Constitution lui en confère beaucoup dans la Ve République. Donc, évidemment, celui de chef des armées, lorsqu'il évoque le débarquement, lorsqu'il évoque l'envoi d'armes à l'Ukraine, évidemment, chef de la diplomatie, lorsqu'il évoque la guerre entre Israël et le Hamas. Et de ce point de vue-là, je trouve que l'exercice est plutôt réussi. J'ai trouvé moins réussi la deuxième partie où précisément il est peut-être un peu moins à la hauteur de président et un peu plus en chef de majorité. On retrouve d'ailleurs d'énormes similitudes entre ce qu'il dit et ce qu'a pu dire un Gabriel Attal, par exemple, ce matin sur une autre chaîne. L'autre phrase que j'entends, c'est « j'entends toujours le message ».
J'entends toujours les messages en cas d'échec aux élections européennes.
Très intéressant.
Alors, on continue, mais je veux des petits mots rapides. Après, on marquera une pause et derrière, on aura tout le temps pour débriefer, évidemment. Anne-Elisabeth Moutet, rapidement.
On a mangé tout le temps de parole.
Vous retenez, Anne-Elisabeth Moutet.
Alors, je retiens, moi je pense qu'il était dans son rôle, je pense qu'il était particulièrement dans son rôle quand les frontières de l'Europe de l'après-guerre, de l'après-deuxième guerre mondiale sont menacées. Et donc, j'ai trouvé que c'était bien, j'ai trouvé qu'il était très mesuré en mettant un certain nombre de principes sur le Proche-Orient, et c'est un exercice difficile, surtout avec l'hystérisation du conflit. Donc moi, j'étais plutôt agréablement surprise, je dirais, c'était une bonne présentation. Bon, ensuite, il a parlé en chef de parti, mais enfin, il n'est pas le premier président de la République a expliqué qu'il a une liste qu'il présente et dont il pense plus de bien que c'est que des autres. Ça, c'est classique.
Et vous savez quoi, Charles Consigny, vous a mangé votre temps de parole. On va marquer
J'ai
une
fait
très
mon Macron
courte
ce soir.
Pause.
Nous allons saisir l'Arcom immédiatement.
On marque une très très courte pause et je vous promets derrière.
Président du plateau.
C'est vous qui serez Prems et qui prendrez la parole pour débriefer cet entretien d'Emmanuel Macron. On marque une très courte pause et on entendra les passages forts de cet entretien si vous l'avez manqué. À tout de suite avec nos spécialistes. Bienvenue, si vous nous rejoignez, on parle ce soir donc de cet entretien d'une demi-heure d'Emmanuel Macron au JT de 20h ce jeudi 6 juin à l'occasion du 80e anniversaire du débarquement. Un entretien qui est contesté par les oppositions à 3 jours du scrutin européen. Une annonce qui ressort principalement de cet entretien, une étape de plus qui a été franchie, Emmanuel Macron l'a annoncé ce soir, la France a bien livré des Mirage 2000, des avions de combat français à l'Ukraine. On écoute le président.
Demain, nous allons lancer une nouvelle coopération et annoncer la cession de Mirage 2000-5, qui sont des avions de combat français qui permettront à l'Ukraine de protéger son sol, son espace aérien. Et donc, dès demain, nous allons lancer un programme de formation des pilotes et puis de cession de ces avions qui permettra d'ici à la fin de l'année. Alors, la France va s'exprimer pour elle-même demain, mais surtout, nous sommes en train de bâtir une coalition avec d'autres partenaires. Donc, je ne serai pas définitif ce soir sur le nombre.
Et pour qu'on ait une idée,
c'est
quand
que,
ces avions seront-ils livrés ?
Comme nos partenaires le font sur le F-16, qu'on puisse le faire. Ce qui est le facteur dimensionnant, c'est le temps de formation des pilotes. Et donc, on va proposer au président Zelensky que les pilotes puissent être formés dès cet été. Il faut normalement 5 à 6 mois. Et donc, que d'ici à la fin de l'année, ils puissent avoir pilotes et avions.
Formés en France ou là-bas ? En France ou en Ukraine ?
C'est en France que nous formerons les pilotes.
Tous les pilotes ukrainiens seront formés en France. Il n'y aura pas de formateurs français en Ukraine.
Pour revenir, c'est la question de la formation, si vous le souhaitez, qui est distincte, mais ça oui.
Donc, des Mirage 2000 avions de combat livrés par la France aux Ukrainiens. On n'a pas encore le nombre, ça devrait être connu dans les prochaines semaines. Mais on a le nombre de pilotes formés, 4500 pilotes.
Non.
Ah non, alors
oui, c'est la brigade. Il y a une brigade de 4500, mais là, ce sont des fantassins.
Oui, tout à fait.
Donc. Alors pardon, précisez-moi ce point, parce que je pensais que c'était 4500 soldats ukrainiens formés par les Français.
Ça serait formidable pour
l'Ukraine. Oui. Alors Julie, d'une façon très simple, donc il y a la décision effectivement de transférer ces appareils de combat, ces Mirage 2000-5 qui sont des avions de défense aérienne.
12, 15, 20 ?
Une douzaine à peu près pour former une escadrille, voilà. Alors, qu'est-ce qu'un avion de combat aérien ? En fait, l'objectif, c'est de protéger l'espace aérien ukrainien. Vous savez, c'est la problématique, c'est qu'aujourd'hui, les Russes ne cessent de bombarder, par exemple, Kharkiv, de détruire des centrales électriques, de taper sur des barrages. Et donc, il faut pouvoir faire une espèce de bulle qui permette d'empêcher les avions russes soit d'envoyer des missiles, soit même d'intercepter des missiles qui sont tirés vers le territoire ukrainien. Donc, c'est vraiment le rôle de ces avions. Ce qui veut dire que ces avions, ils ne sont pas faits, par exemple, pour aller détruire des chars russes sur la ligne de front. C'est vraiment des avions de défense aérienne. Extrêmement performants, même s'ils ont déjà quelques années, mais ils ont été modernisés. Ils disposent d'un radar extrêmement performant, de missiles qu'on appelle RR, pour détruire d'autres avions très performants. Maintenant, c'est tout un processus, parce qu'il faut former les pilotes. Ça prend plusieurs mois.
Ce sera cet été, donc.
Alors, oui, enfin, ça va commencer cet été.
Et ça durera plusieurs mois jusqu'à la fin de l'année.
Voilà. Il faut former l'environnement, c'est-à-dire les mécaniciens. Par exemple, les mécaniciens qui assurent le soutien membre du réacteur. Mais aussi les mécaniciens qui assurent la réparation de l'électronique. Donc, c'est un processus qui est relativement long. Mais c'est un signal très important qui est envoyé, bien sûr, à l'Ukraine. Mais surtout à la Russie de Vladimir Poutine.
Donc, si je reprends, parce que moi j'avais mal compris, cette fameuse brigade de 4500 personnes, elle contient ses mécaniciens,
non,
etc.
Ça, c'est autre chose.
Alors, toujours voilà. Pas. Alors, expliquez-moi.
Donc, les avions, c'est Voilà, l'armée de l'air. Oui. Et donc, la brigade, en fait, la problématique, c'est qu'il faut rehausser le niveau de compétence de l'armée de terre ukrainienne, c'est-à-dire les fantassins, les cavaliers, les artilleurs. Et donc, la France, en coalition avec ses partenaires, va, en fait, former une brigade, c'est-à-dire former 4500 soldats, donc avec des soldats qui vont être des fantassins, d'autres qui vont conduire des chars. Donc, c'est une étape très importante parce que jusqu'à présent, on formait au niveau du bataillon, c'est-à-dire on formait environ 300, des gros paquets de 200 à 300 combattants. Là, on va former une unité de 4500 hommes. Alors, après, la question va se poser où et avec qui. Mais donc, on a bien deux choses, l'armée de l'air, les avions, et puis cette brigade de 4500 hommes pour les combats sur la ligne de front. Et ça, ça va prendre plusieurs mois parce que il faudra que cette brigade soit opérationnelle. Et ce qui veut dire aussi que pour nous, la guerre est imposée par la Russie, elle va se poursuivre. Et donc, on est déjà, en quelque sorte, déjà en 2025.
C'est une bonne nouvelle, Christophe Barbier ?
C'est une bonne nouvelle pour les Ukrainiens. Ça ne règle pas leur problème de l'été 2024 et des offensives russes. Absolument. Qui vont se multiplier, dont on ignore encore l'intensité et les cibles. Ce qui se passe sur Kharkiv nous en donne déjà une indication. C'est une bonne nouvelle aussi de voir qu'un pays comme la France, qui siège au Conseil de sécurité, qui a un certain leadership en Europe, s'engage sur le long terme. On n'est pas dans du court terme avec quelques caisses d'obus pour tenir les 15 jours qui viennent, on est sur du long terme. Ça donne aussi l'idée de ce que pourrait être après la fin de ce conflit, parce qu'il se terminera, quel que soit le découpage du pays à ce moment-là, de ce que pourrait être une association pérenne entre la France et l'Ukraine en termes militaires, en termes diplomatiques, et donc le portage, alors là, à très long terme, et le président a été très tiède sur ce point, vers une candidature aboutie de l'Ukraine à l'entrée dans l'Union européenne. Il a signalé le symbole politique, l'Ukraine est candidate. Il a bien expliqué que ce n'était pas une
c'est
question
pas pour
de
demain.
Non, c'est pas pour demain.
C'est ce qu'il a dit.
C'est pas pour demain. Et on sait que les entrées dans l'Union européenne peuvent se faire ratifier par des référendums. Comme ça avait été le cas pour les Britanniques en 72. On avait voté pour. A-t-on eu raison ?
Nicolas Tenzer, on franchit quand même un cap supplémentaire, encore une ligne rouge qui est balayée, que la France décide de franchir.
Oui, bien sûr. En fait, il n'y a pas une nouveauté absolue aujourd'hui dans ce que fait la France. Je ne dis pas que les annonces ne sont pas essentielles. Elles sont essentielles. Fournir des Mirage 2000, c'était attendu depuis très longtemps. C'était déjà sur la table. Les discussions existaient depuis plus d'un an. La question, effectivement, d'avoir quand même des troupes européennes très importantes pour assurer des missions de formation. D'ailleurs, il faudra voir si c'est loin de la ligne de front ou parfois directement au combat, voire en quasi-contact avec l'ennemi, vraiment du conseil opérationnel. Ce sont déjà des choses qui existaient. Il ne faut pas oublier qu'il y a déjà eu ce genre de choses, sauf qu'on n'en parlait pas. Donc il n'y a pas, si vous voulez, quelque chose de totalement novateur malgré tout, mais aujourd'hui ça veut dire qu'on monte d'un cran avec, et c'est assez intéressant, on monte d'un cran avec l'ensemble de nos alliés. Parce que aujourd'hui, vous avez eu peut-être la déclaration aussi d'un des porte-parole de la Maison Blanche qui a dit que pour les frappes avec les armes américaines en l'occurrence, elles concernaient non seulement les bases terrestres d'où étaient lancés les missiles sur l'Ukraine, mais également les avions eux-mêmes. Et d'ailleurs, sur la mission future de ces Mirage 2000, oui. Est-ce que ces Mirage 2000 vont pouvoir aussi directement abattre des avions ennemis qui sont susceptibles de lancer des missiles sur l'Ukraine ?
En tout cas, on va vous poser la question juste après. On marque une très courte pause, mais il justifie, Emmanuel Macron, l'autorisation de cibler des points en Russie.
Bien sûr. Mais c'est l'article 51 de la Charte des Nations Unies.
Et on l'entendra.
C'est l'application stricte.
On l'entendra dans un instant. À tout de suite. L'entretien d'Emmanuel Macron au JT du 20h ce soir, évidemment, contenu en parler avec mes invités. Un entretien qui fait un peu polémique, puisque certes, on est le jour du 80e anniversaire du débarquement allié en Normandie, mais il y a aussi ce scrutin, les élections européennes, dans 3 jours. Et Emmanuel Macron n'a pas pu s'empêcher de réinstaurer ce duo avec le Rassemblement national. L'extrême droite directement visée dans cet entretien. On écoute le président.
On voit monter partout en Europe l'extrême droite. Alors beaucoup de nos compatriotes peuvent se dire, il y a 5 ans, déjà l'extrême droite était un peu devant la majorité présidentielle, ça n'a pas été un drame. Parce que l'extrême droite n'était pas haute en Europe. Mais si demain, la France envoie une très grande délégation d'extrême droite, si d'autres grands pays le font, l'Europe peut se retrouver bloquée. Parce que c'est quoi une Europe où l'extrême droite sera forte ? S'il y a à nouveau une pandémie, c'est une Europe qui ne vous protégera pas. Et donc, si demain l'extrême droite a une minorité de blocage en Europe, vous n'aurez pas une Europe des vaccins. Ce sont des gens qui vous donneront la chloroquine ou le vaccin Spoutnik. Si demain vous avez l'extrême droite qui a une minorité de blocage en Europe, c'est une extrême droite qui pourra arrêter le prochain plan de relance que nous avons voté malgré eux. Et d'ailleurs, pour ce qui est de la France, malgré toutes les autres listes qui ont toutes voté contre.
Si vous avez
demain l'extrême droite qui a une minorité de blocage en Europe, face à l'immigration clandestine que nous subissons, vous n'aurez plus les textes qui nous protègent parce qu'ils croient à la réponse nationaliste et pas européenne.
Mais si demain,
et donc ce que je dis, c'est que nous devons le 9 juin nous battre pour défendre ceux qui se battent pour l'Europe parce que l'Europe nous protège.
L'extrême droite affaiblira la France. Il n'a pas pu s'en empêcher, Emmanuel Macron.
Écoutez, franchement, je trouve ça quand même assez hypocrite. C'est quand même Emmanuel Macron qui a théorisé le fait que, quand il avait que l'extrême droite contre lui, comme il dit, il était sûr de gagner. C'est quand même lui qui a le plus possible fait vivre, survivre cette espèce d'opposition fantoche dont il est certain que toujours il la battra parce qu'au dernier moment, les gens auront peur et iront voter pour lui. Quand il nous explique que sans l'Europe, on ne pourra pas lutter contre l'immigration clandestine, aux dernières nouvelles, on a beau avoir l'Europe, on ne lutte pas du tout contre l'immigration clandestine. Quand il nous dit qu'on ne sera pas protégé en cas de pandémie, moi je me souviens de la gestion de la pandémie en France, je suis désolé, mais je n'ai pas eu le sentiment d'être particulièrement protégé, j'ai eu le sentiment d'être enfermé, ça oui, j'ai le sentiment de subir.
Enfin, la politique des vaccins a été plutôt un succès, non, en France ?
Oui, mais enfin, c'était incroyablement. Ça a été
Pas comme en Angleterre. Les Britanniques ont vacciné un mois et demi plus tôt.
Ça a été incroyablement liberticide. Donc, je ne pense pas qu'on puisse vraiment se féliciter.
On va pas revenir sur le débat du Covid, mais ça a été liberticide pour protéger la santé des Français.
Oui, ça a été la même politique qu'en Chine, qui n'est pas exactement une démocratie, qui est plutôt dirigée par.
Ça
n'a
pas été tout à fait la même politique qu'en Chine. Ils sont restés confinés bien plus longtemps que nous.
Mais on est restés confinés très longtemps. On a eu un couvre-feu très long. On a eu énormément d'interdictions. On a eu énormément d'entraves à la circulation. On a eu énormément de contrôles. Je suis désolé, ça n'a pas été une période glorieuse sur le plan des libertés publiques. Et je ne pense pas, et tout le monde d'ailleurs l'a constaté après, que la pandémie en question, surtout après au temps long, au moment du reconfinement, des couvre-feux, etc., justifiait ces politiques-là. Donc, se féliciter de ça comme si l'extrême droite, elle, aurait été plus liberticide, par exemple, je pense pas. Bon, peut-être la chloroquine, etc. C'est vrai que Bardella avait dit qu'ils étaient à la politique, le RN, ce que Raoult était à la science, donc à la médecine. Donc c'est, là-dessus, il a pas tout à fait tort. Mais voilà, je trouve qu'il y a quand même un peu et même beaucoup d'hypocrisie là-dedans, et que les heures les plus sombres de notre histoire ne peuvent pas être sans cesse la planche de salut d'Emmanuel Macron. Et à un moment, j'aimerais qu'il aille chercher d'autres arguments que la peur de la répétition du pire en Europe. Et je constate que depuis 2017, il n'en a pas d'autres.
On sent bien qu'on est quoi dans l'ultime étape, Nella Latrousse, l'ultime étape de la campagne pour Emmanuel Macron. Et cet entretien clôt la campagne, d'une certaine manière, pour le président ou son implication dans la campagne.
Alors, j'ai presque envie de vous dire non, parce qu'il y a encore le discours de Bayeux de demain qui s'annonce être un discours politique. Discours demain matin, on est...
Comme celui de De Gaulle en 46.
Il y a deux facettes.
Eh oui, il y a 44 et il y a 46. Voilà. Mais je vous parie que demain, il y aura du 46.
44, donc... Peut-être pour repréciser, c'est le discours du général de Gaulle à Bayeux, 14 juin 44 de mémoire, lorsqu'il participe au débarquement, lorsque le débarquement a eu lieu, pardon.
Et ses premiers pas en France.
Voilà, oui. Et puis deux ans plus tard, effectivement, il y revient pour présenter son projet politique pour la France. Et donc, c'est les deux facettes du discours. Et demain, vous avez raison, mais de toute façon, il y a assez peu de secrets, parce qu'on nous le dit assez clairement, on nous dit que ce sera un discours très politique. Donc, de ce point de vue-là, il y en a encore, pour ceux qui en doutaient. Donc, on n'est pas... Et j'ai même presque envie de dire que sans doute que samedi, aussi, dans une journée qui sera encore marquée par, notamment, la visite d'État de Joe Biden, qui sera encore en France à ce moment-là, sans doute qu'on aura aussi des messages politiques, parce que, je précise qu'il y a une période de réserve qui va commencer à partir du vendredi minuit. Les candidats, notamment, ne peuvent plus faire campagne, il n'y a plus de collage d'affiches, etc. Cette période de réserve, elle ne s'applique pas, notamment pour le chef de l'État, qui lui peut continuer à jouer son rôle de chef de l'État.
Il y a un espoir pour le chef d'État, que ces cérémonies aient un effet d'aubaine sur la campagne, réellement ?
le silence ne produit aucun vote. Parler peut produire des votes. Alors depuis un certain temps, chaque fois que l'exécutif se mêle de cette campagne, ça joue plutôt contre son camp. Mais il persiste, il essaye d'insister. Le fait de mettre ça en miroir avec un passé guerrier, un passé sombre, ça peut aider à mobiliser des gens. C'est vrai que tous ces vétérans étaient là pour nous dire que leurs camarades étaient morts pour qu'on soit en démocratie. Et vous n'allez pas voter dimanche ? Il faut quand même avoir une certaine conscience un peu faible pour refuser d'utiliser le vote démocratique que d'autres ont sauvé en perdant la vie. Par ailleurs, bien sûr, il y a de l'hypocrisie. Bien sûr, il y a de l'instrumentalisation. Mais tout le monde en est là. Quand les députés LFI se déguisent en drapeau palestinien à l'Assemblée nationale, c'est sans doute par solidarité avec le peuple de Gaza. Ils ont cette sincérité d'engagement. Mais c'est aussi parce qu'ils en espèrent un effet de levier électoral qui, d'ailleurs, a l'air de fonctionner dans les sondages d'après les données de ce soir. Donc, vous voyez, tout le monde jette ses dernières cartouches pour essayer soit d'éviter la défaite humiliante, c'est le cas pour la majorité présidentielle, soit de maximiser son avantage, c'est le cas pour Jordan Bardella, qui a été un peu moins habile, soit essayer de gagner des voix.
Là. Cela dit, il y a un précédent qui est assez intéressant, c'est Mitterrand 84. Mitterrand 84, il parle évidemment pour le débarquement le 6 juin. Les législatives, ont lieu un peu après, le 17 juin, mais en revanche, évidemment, à l'occasion de cette année électorale, il prend la parole dans 6 quotidiens régionaux en parlant de l'Europe, de la présidence française de l'Union européenne, la présidence tournante échouée à Paris à ce moment-là. Et il parle aussi des européennes. Et alors, j'ai regardé l'entretien, et je vous jure, mais alors, il n'y a aucun montage. On parle de l'autonomie de la dissuasion nucléaire. On en a parlé pendant ces européennes-là, partage ou non du parapluie nucléaire. Il est interrogé sur la convergence avec les autres pays. Il est interrogé par un journaliste, je cite, sur les périls mortels qui pèsent sur l'Europe. Je vous rappelle qu'Emmanuel Macron nous a expliqué que c'était une élection capitale parce que l'Europe risquait de disparaître, de mourir. On parle du mécontentement qui monte chez les agriculteurs, de l'Europe à plusieurs vitesses, de l'Europe de la défense. Nous devons accroître la capacité de cette Europe à déterminer elle-même les moyens de son indépendance et de sa sécurité.
Beaucoup
c'est Mitterrand 84, pas Macron 2024.
C'était l'Union soviétique.
Comment ça s'était passé, Christophe ?
C'était la Russie.
La liste PS, c'était crachée. Alors, était troisième
du Front National, au Parlement européen pour la première fois.
Et François Mitterrand sortait de la crise de l'école.
Comme adversaire politique, parce que c'est une initiative de Mitterrand, puisqu'il va introduire ensuite une dose de proportionnelle dans les élections législatives, ça va d'ailleurs pas durer, et le Front National, qui avant était un groupuscule au milieu d'autres groupuscules d'extrême droite, reste le seul, et commence une trajectoire qui va arriver à Bardella aujourd'hui.
Mathieu Lefèvre est avec nous, député Renaissance du Val-de-Marne. Merci d'être avec nous ce soir, vous suivez nos débats depuis le début, vous êtes très impliqué, vous n'êtes pas sur la liste, mais vous êtes très impliqué dans la campagne de Valérie Ayé, votre candidate. Déjà, que répondez-vous à ceux qui critiquent ce nouvel entretien du président à 3 jours du scrutin ? François-Xavier Bellamy, en réaction sur BFM TV, lui, poursuit et persiste et signe. Rien ne justifie cette prise de parole à 24 heures de la fin de la campagne.
Je trouve que c'est un petit peu insultant pour les milliers de combattants américains, français, canadiens, britanniques, qui sont morts il y a 80 ans pour protéger notre liberté et pour que l'espace soit un continent de paix. Penser que le président de la République ne pourrait pas s'exprimer un jour aussi important pour la mémoire collective, c'est un petit peu insultant pour cette mémoire. Je crois que M. Bellamy est à la recherche d'un nouveau coup d'éclat, à défaut d'avoir pu peser pendant son mandat.
Sauf que Mathieu Lefèvre, il n'a pas simplement parlé de la situation en Ukraine et à Gaza. Il a parlé directement des élections européennes dans 3 jours et il en a même profité pour réinstaller ce duo avec le Rassemblement national.
Et parce que le Rassemblement national est un poison mortel pour l'Europe et donc pour la France. Le président de la République, il est attaqué matin, midi et soir dans cette campagne et il n'aurait pas droit de répondre, il n'aurait pas droit de dire à quel point ces élections sont essentielles et existentielles pour notre pays. Vous savez, dans cette campagne, tout le monde veut nationaliser le scrutin. À part Valérie Ayé, personne n'a formulé des propositions européennes. Le président de la République est, je crois, à la hauteur du moment, du danger qui guette l'Union européenne. L'extrême droite a combattu l'Europe, l'idée européenne, depuis le début de sa création. Elle n'a cherché qu'à la fragiliser. Et on voudrait aujourd'hui que le président de la République, qui est un Européen convaincu, refuse de combattre cette extrême droite. Eh bien non, il le fera, il continue à le faire parce qu'il sait qu'il en va de l'avenir de la France, et singulièrement dans un jour aussi important que celui-ci.
Donc c'était un discours de campagne.
n'était pas un discours de campagne. Il n'y a aucune raison que le président de la République ne soit pas lui aussi à la hauteur des enjeux qui sont ceux auxquels notre pays est confronté. Les Français dimanche vont se prononcer pour ou contre l'Union européenne, pour ou contre la poursuite de la construction européenne dans les grands défis que nous connaissons au moment où la guerre est de retour aux portes de l'Europe. Et nous l'affirmons avec la majorité présidentielle, avec le camp présidentiel. Oui, l'extrême droite est un danger, un poison mortel pour l'Europe, parce que je rappelle qu'il y a quelques années encore, Marine Le Pen posait avec une photo du Brexit derrière elle. Et quelques années encore, Marine Le Pen voulait sortir de l'euro. Elle proposait même l'écu. Marine Le Pen, elle a comme projet d'être comme Madame Meloni, où il y a 100% d'immigration irrégulière en plus depuis sa prise de pouvoir. Ces gens, dans le fond, ne respectent même pas le débat. Et il faudrait que le président de la République laisse faire. Je crois qu'il a eu bien raison de pouvoir remettre l'église au milieu du village, comme on dit. Et il a eu raison de rappeler aux Français à quel point le Rassemblement national est un danger mortel pour le pays et pour l'Europe.
Merci Mathieu Lefèvre d'être intervenu dans notre émission ce soir. Ils espèrent quoi ? Un réveil de l'europhilie avec ces cérémonies du 80e anniversaire du débarquement ?
Oui, qu'il y ait une sorte de prise de conscience que l'Europe que nous avons sauvée et maintenue dans le camp de la démocratie en 1944, si elle veut rester intègre dans ses territoires comme dans ses valeurs, elle doit être soutenue par les peuples. Honnêtement, je suis assez sceptique sur l'efficacité purement électorale à 48 heures du scrutin de ce genre de réflexion, de ce genre de démission. Peut-être que pour le président, il y a une chance de bouger un peu les scores, c'est que ça, son problème, ce ne sont pas les autres électeurs, les électeurs des autres partis, c'est le cœur de l'électorat macroniste, qui boude, qui ne veut pas y aller. Et là, il y a un véritable problème entre ceux qui ont voté Le Pen au premier tour de la présidentielle et qui sont quasiment tous chez Bardella, et ceux qui ont voté Macron au premier tour de la présidentielle et qui ne sont pas vraiment chez Valéry Ayé, là, il y a peut-être une petite marge de manœuvre pour lui. Mais c'est loin d'être gagné. Les tendances électorales de fin de campagne obéissent toujours à deux logiques contradictoires. Et le tout, c'est de trouver la bonne. La première logique, c'est la catalyse. Ça s'accélère. Et donc, vous étiez dans une pente descendante, et ben ça va encore plus bas que prévu. C'est Jospin 2002. Ça descendait et il finit par être derrière Le Pen. Valérie Ayé, si c'est ça, elle sera derrière Glucksmann. Elle ne sera pas deuxième, elle sera troisième. Mais il y a une autre logique, qui est parfois la logique du coup de pied au fond de la piscine. C'est que vos électeurs ont boudé pendant toute la campagne parce qu'ils sont pas contents de ce que vous faites. Puis à la dernière minute, ils disent « Bon, on va quand même y aller parce qu'on veut pas que le camp d'en face gagne ». C'est ce qui a pu, par exemple, aider Nicolas Sarkozy aux Européennes de 2009. Mais rien ne garantit que ça sera le cas pour la majorité présidentielle dimanche.
Avec une Valérie Ayé toujours à 15,5%, tout dernier sondage Ipsos paru aujourd'hui. Toujours très loin de Jordan Bardella, qui est à 32. L'écart est énorme.
C'est plus ça le match. C'est, est-ce qu'il est derrière Glucksmann ou pas?
Il est à 2 points derrière pour l'instant.
Oui, de ce point de vue-là, le match est plié. Et peut-être plus rassurant pour Valérie Ayé, c'est que Raphaël Glucksmann, en revanche, semble atteindre, lui, une forme de plafond. Il reflue même légèrement. Et pas uniquement dans ce sondage, y compris dans d'autres enquêtes d'opinion. Or, ça peut bouger de 2-3 points dans les tout derniers jours. Je crois qu'il y a 7% des électeurs qui, dans ce sondage, disent qu'ils se décideront le dimanche même.
7% qui se décideront le dimanche matin.
Oui, c'est assez important. Et dans ceux qui se disent sûrs d'aller voter, sur 10 électeurs sûrs d'aller voter, il y en a 3 qui disent « je peux encore changer d'avis ».
Oui, et Glucksmann a un électorat particulièrement indécis. Alors que d'autres, Ayé et puis Bardella, ont un électorat quand même, pour ceux qui ont décidé de voter, ils n'ont pas l'intention de changer d'avis. Glucksmann est quand même assis sur des sables mouvants. Est-ce qu'il va être englouti par ces sables-là ou pas? Il faudra garder l'écart, évidemment, avec Valérie Ayé. Est-ce qu'il est devant, est-ce qu'il est derrière? Et aussi l'écart avec la France insoumise. Parce que le pari palestinien de Valérie...
Il a l'air de marcher de plus en plus.
Il marche pour l'instant dans les sondages.
Alors, elle est à 9%, Manon Aubry, dans ce dernier sondage.
C'est-à-dire plus 50% par rapport aux Européennes 2019, où elle avait fait 6,2%. Plus 50% si ce sondage lui donne son score de dimanche.
Mais ça fait maintenant presque 2 mois qu'on est en train d'y arriver, y avoir un croisement des courbes entre Raphaël Glucksmann et Valérie Ayé, et ça ne se passe pas. Et il est arrivé quelque chose à la candidature de Raphaël Glucksmann.
Mais quoi ?
Qui fait que c'est une bonne question.
Curieux, hein ?
Je pense que finalement, il a commencé en étant vraiment complètement différent, et puis essayant d'agréger des voix, il a commencé à ressembler en plus soft à plusieurs candidats de gauche, et en particulier, il y a eu un moment où il a vraiment insisté sur Gaza, qui ne lui a amené, à mon avis, personne de la France insoumise, mais qui lui a fait perdre certains partisans, et le résultat, c'est que ce croisement des courbes, je pense maintenant, il y a probablement une vingtaine de sondages qu'on a vu passer, et il n'a pas réussi.
Glucksmann n'arrive pas à être l'homme qui met fin à la NUPES.
Oui.
cette NUPES en suspens depuis cet octobre.
Il est flou, et, à mon avis, il est flou et il n'est pas assez à gauche. Souvenez-vous de Hollande 2012. À quel moment il prend des points? C'est quand il dit j'ai un ennemi, il n'a pas de visage, etc. C'est le monde de la finance. Et là, boum, ça décolle. Et avant ou après ça, vous
la
avez.
La taxe à 75%.
La taxe à 75%. Après. Et les gens de gauche, ils attendent ce genre de choses. Et le problème de Glucksmann, c'est que je pense qu'il a été un peu tétanisé par ces sondages élevés et il ne propose plus rien depuis quelques semaines. On sait plus exactement qui il est. Est-ce qu'il est centre-gauche? Est-ce qu'il est vraiment gauche? Est-ce qu'il est pro-israélien, pro-palestinien? C'est pas très clair. On sait qu'il est très écolo, mais c'est pas pour ça que les écolos votent complètement pour lui. Donc voilà. Moi, je pense qu'il a un problème de flou dans son expression. D'ailleurs, s'il nous écoute, il devrait. Moi, si j'étais lui, je donnerais un dernier coup de barre à gauche très volontaire pour se faire entendre. Je comprends pas qu'il le fasse pas. Je comprends pas qu'il le fasse pas.
Trop flou pour percer, s'élever peut-être et croiser la courbe de Valérie Ayé, Nella Latrousse.
Il a été pour moi une découverte pendant les débats parce que j'ai découvert un candidat qui, dans ce moment de politique tumultueuse, était capable de s'affirmer sans être agressif à l'égard de ses adversaires, en réussissant à ne pas tomber dans les pièges grossiers comme il avait pu le faire en 2019 où on le sentait un peu moins mûr pour ce type de joute, et puis asséner effectivement un certain nombre de ses propositions. Quand restera-t-il le 9 juin quand les électeurs seront devant les bulletins et qu'ils devront faire un choix? Je crains qu'effectivement que Charles ait raison là tout de suite. Comme ça, on dirait la mesure que Raphaël Glucksmann a portée pendant cette campagne, on serait bien en peine d'en mettre une sur la table. C'est-à-dire que, en réalité, tous ces marqueurs convergent avec des points qui sont portés par d'autres. Sur l'Ukraine, honnêtement, il n'y a pas de divergence fondamentale, par exemple, avec ce que peut dire une Valérie Ayé. Sur l'écologie, je ne vois pas de différence non plus fondamentale avec ce que pourrait dire une Marine Le Pen.
Rien qui l'identifie.
Sur les droits sociaux, je ne vois pas de différence, ou en tout cas de différents irréconciliables avec un Léon Desfontaines. Bon, il y a la bataille dans la bataille avec Manon Aubry qui a été extrêmement efficace, elle, pour le coup, pour placer ses marqueurs auprès de l'électorat de gauche. Et de fait, c'est aussi ce qui explique qu'elle grappille quelques précieux points dans cette
campagne. Et ça a l'air de marcher dans cette toute dernière ligne droite. Je voulais qu'on écoute à nouveau Emmanuel Macron ce soir lors de cet entretien, qui lance un message aux Français, allez voter. On regarde.
Quand je dis qu'il y a un vent mauvais, plus largement, je regarde les élections européennes. Et pourquoi je pense que c'est mon rôle d'intervenir aujourd'hui, indépendamment du fait que nous sommes un jour particulier qui le justifie? D'abord parce que je vois les niveaux d'abstention qu'il y a partout en Europe, mais aussi en France.
Ça, c'est souvent le cas.
Il y a 5 ans, nous avions eu un des niveaux les plus importants de participation aux élections européennes. Et donc, j'appelle vraiment nos compatriotes à aller voter le 9 juin. Mmh. Allez voter.
Il n'y a qu'un tour.
Et vous avez, merci de le dire, il n'y a qu'un tour. Il n'y a pas deux tours.
Parce que vous n'allez pas leur dire quel est le bon choix.
Allez voter le 9 juin, c'est très important. Je le dis parce que je repense toujours, moi, à nos amis britanniques qui ne sont pas allés voter un certain jour de Brexit. Ne pas aller voter, c'est laisser l'avenir de notre continent et de notre pays à d'autres.
L'abstention qui pourtant jouerait en sa faveur, non? On sait que c'est l'ennemi numéro un du Rassemblement National, l'abstention.
Oui, ça lui a joué des tours dans plusieurs élections, mais l'abstention peut être aussi le refuge de macronistes déçus, de macronistes bougons, qui n'ont pas envie d'aller voter Glucksmann ou évidemment pas Bardella, mais qui n'ont pas envie de donner un satisfecit au président pour ses 2 premières années de son second quinquennat, qui sont des années brouillonnes, où il a donné l'impression de virer trop à droite pour certains, de ne pas savoir se hisser au-dessus des difficultés à l'Assemblée nationale et de construire une majorité. Tout a été douloureux, tout a été cafouilleux depuis 2 ans dans le développement du programme présidentiel.
Et il a convoqué le souvenir du Brexit. Il a fait le parallèle avec tous ces Britanniques qui ne se sont pas déplacés. Et le résultat, c'était le Brexit.
Écoutez, à tout hasard, en France, on tape sur le Brexit. Alors, c'est très maladroit. Il y a eu une vindicte française contre les Britanniques lors des 4-5 années qui ont duré les négociations qui ont abouti au processus de Brexit effectif après le vote de 2016. Et ça a été mauvais pour tout le monde. Ça a été mauvais parce que ça a introduit du ressentiment un peu partout. Et la France était leader là-dedans. Je veux dire que les instructions françaises étaient comme ça. Elles étaient parfaitement exécutées par M. Barnier. De sorte que beaucoup d'autres pays en Europe se disaient on pourrait pour moins avoir un agrément comme les Suisses ou comme les Norvégiens avec le reste de l'Europe, avec la Grande-Bretagne. Ça nous éviterait des pertes de marché d'un côté et de l'autre. Et c'est la France qui a dit, et d'ailleurs le Premier ministre Jean Castex a dit, il faut que les gens qui veulent quitter l'Europe sachent que ça va être douloureux. C'est-à-dire on a puni les Anglais d'un vote démocratique. C'est pour ça que Nigel Farage, en ce moment, puisqu'il y a des élections en Angleterre le 4 juillet, est en train de monter et qu'il menace même le parti conservateur. Et je pense que l'attitude française a été un poil irresponsable sur le Brexit et que cette obsession sur les horreurs du Brexit, à chaque fois qu'on ne sait plus quoi dire, c'est narcissique quelque part. C'est regarder, en tous les cas, on peut taper sur les Anglais. C'est peut-être agréable au moment où on le fait, mais je pense que ce n'est pas une bonne chose en politique.
Emmanuel Macron, qui a parlé de la situation en Ukraine avec cette nouvelle étape qui a été donc franchie, l'annonce de l'envoi de Mirage 2000-5 avec des pilotes qui seront formés d'ici la fin de l'année. Les formations commenceront dès cet été. Une initiative critiquée par François-Xavier Bellamy, tête de liste Les Républicains sur notre plateau. On l'écoute.
Ma conviction profonde, c'est que le soutien à l'Ukraine, attaquée par la Russie, est une question trop grave pour être instrumentalisée à la veille d'une élection. Et le président de la République, aujourd'hui, n'est pas en train de soutenir l'Ukraine. Je ne vois rien qui puisse justifier qu'à 24 heures de la fin d'une campagne électorale, il y ait une urgence telle qu'il faille...
Alors, il a répondu, Nicolas Tenzer, il le dit, ce soutien à l'Ukraine, c'est une pure instrumentalisation à des fins électoralistes. Vous y croyez-vous ?
Non, je ne crois pas. Je pense d'abord que c'est sincère. Je pense que Emmanuel Macron, qui avait commis un grand nombre d'erreurs, sinon de fautes, à la fois avant 2022 et encore au début de la guerre totale russe contre l'Ukraine, a quand même compris, au moins depuis le 31 mai 2023, son discours de Bratislava. Et je pense qu'il y a quelque chose assez dramatique, je dirais, dans le sentiment du président, que d'autres candidats partagent. Je pense notamment à Glucksmann, je pense aussi à Marie Toussaint. Là-dessus, il y a vraiment quelque chose d'assez commun et d'assez fort là-dessus, que vraiment, c'est nous directement qui sommes menacés. En revanche, effectivement, du côté de M. Bellamy, je vois quand même énormément d'ambiguïté d'un certain nombre de personnes sur sa liste. Je vois l'ambiguïté aussi...
Ambiguïté quant à l'aide et au soutien
à l'Ukraine. Oui, se voit. On voit même, par exemple, un certain nombre, vous avez vu récemment d'ailleurs, un certain nombre de personnes à l'Assemblée nationale qui ont critiqué la venue du président Zelensky, qui demain s'adressera devant la représentation nationale à l'Assemblée.
Le président des députés Les Républicains, Olivier Marleix, a jugé déplacé d'inviter à 48
heures. Oui, voilà. Alors que justement, c'est un sujet qui devrait être une cause nationale, qui n'est pas une cause partisane, qui doit rester au-dessus des partis. Et je ne vois pas du tout que ni Glucksmann, ni Valérie Ayer, ni d'ailleurs Marie Toussaint n'instrumentalisent cette cause. Je pense que c'est se tromper complètement de débat. En revanche, effectivement, ce que je vois, c'est que LR reste extrêmement ambigu, très flou. On a vu quand même un certain nombre des candidats sur la liste de M. Bellamy quand même avoir des positions parfois assez pro-russes, pour le moins.
Je n'ai pas
pour le moins. Alors je parle très précisément à la fois du général Gomard, qui a été quand même très souvent
qui est sur la liste,
qui est sur la liste, qui est troisième sur la liste, la position de d'Hortefeux, la position de Nadine Morano également.
Quelle était leur position
Alors qui étaient des positions surtout au début. Je me rappelle toujours un interview du général Gomard où il disait, c'était en mars 2022 exactement, il disait il ne faut pas livrer d'armes à l'Ukraine parce que ça va accroître la souffrance du peuple ukrainien. Je veux dire, on en était là. Et je vois effectivement Mme Morano qui donne un entretien au journal Omerta, qui a quand même un certain nombre de complaisances, disons, avec la Russie. Je vois les positions de M. Hortefeux qui suit, comme son ombre, évidemment, Nicolas Sarkozy, mais c'est son habitude. Donc, je veux dire, on a quand même, je dirais, une ambiguïté d'un certain nombre, pas de tous, je pense que François-Xavier Bellamy est probablement un peu plus clair là-dessus, mais il tient compte, je crois, de composantes dans son camp qui sont pour le moins partagées. Et je pense qu'aujourd'hui, faire une critique sur l'Ukraine au président de la République, alors qu'il y a plein d'autres raisons de faire des critiques politiques qui sont tout à fait normales,
Mais même sur
je
l'Ukraine,
pense effectivement...
On a le droit de faire une critique sur l'Ukraine.
On a le droit.
Par exemple, sur le sujet précis de l'envoi de troupes françaises au sol en Ukraine, on a le droit de dire qu'on n'est pas d'accord sans être décrit comme ambigu sur le sujet de l'Ukraine. Moi, par exemple, je n'ai pas envie...
C'est votre cas ?
Mais je n'ai pas envie que des soldats français aillent risquer leur vie sur le sol ukrainien. Non, je ne le souhaite pas. Et je considère que ça n'est pas mourir pour la France que d'aller mourir pour l'Ukraine. Je pense que c'est dangereux d'aller dans cette escalade-là.
Et pour l'instant, on n'y est pas, d'ailleurs.
Ce que j'espère...
Oui, d'ailleurs, ce que j'espère,
dans un discours, là, on ne s'y retrouve plus parce qu'il y a les interviews, les discours, il y a beaucoup de prises de parole d'Emmanuel Macron à quelques jours du scrutin. Hein, on le remarquera. Moi, j'ai entendu un discours sur les sacrifices et tout ça. J'ai vu le chef d'état-major qui a dit ça. C'est sorti sur les réseaux sociaux, le chef d'état-major des armées françaises qui a expliqué que les Français étaient prêts, la nation est prête à des sacrifices, comme s'il avait consulté la nation, comme si qui que ce soit s'était prononcé au nom des Français
vous,
sur
ça
le
vous
sujet.
Fait peur. Non,
c'est pas ça. C'est que j'espère, si vous voulez... que c'est une ruse, en quelque sorte, d'Emmanuel Macron dans la guerre psychologique avec les Russes pour leur dire, vous n'avez pas de limite, nous n'en avons pas.
Mais c'est ce qu'il a admis, d'ailleurs. Oui, voilà. Les Russes ne comprennent que la force.
Après,
le rapport de
non, mais si c'est ça, ça va. Mais je suis désolé, moi, j'estime qu'on ne va pas, on ne doit pas risquer la vie de soldats français sur le sol ukrainien.
Alors, je vous donne la parole. Alors, allez-y, Anne-Elisabeth Boudet, ensuite, je voudrais qu'on accueille Charles Sapin.
Il faut surtout, nous n'allons pas mourir pour Danzig. Et ne pas savoir que l'Europe est attaquée, ne pas savoir que des pays européens sont attaqués, que la Russie s'est permis de retracer et de réduire l'espace maritime des pays baltes, par exemple récemment, en démolissant toute une série de bouées et en installant une ligne, en tous les cas en annonçant une ligne différente. Ça veut dire que la Russie peut dire, et elle sait ce qu'elle fait quand elle fait ça, c'est la politique de la force, c'est la politique de la menace qui consiste à dire « quand je veux, je peux découper votre territoire ». Et votre territoire maritime. Alors ça, c'est même très grave. C'est à la fois des membres de l'OTAN et des membres de l'Union européenne. Je pense personnellement qu'Emmanuel Macron est sincère. Il a vu, finalement, il a compris ce qui s'était passé. Le discours de Bratislava est une chose importante. Je dirais que dans la liste de François-Xavier Bellamy, j'ai aucun doute sur ce que dit François Bellamy, parce que je l'ai entendu plusieurs fois parler de l'Ukraine avec beaucoup de connaissances et de convictions, et notamment aux conversations Tocqueville, qui sont une rencontre assez intéressante justement sur ces sujets, et il a été, j'ai pas de doute, mais je vais pas avoir d'opinion sur Nadine Morano. J'ai l'impression, l'ayant également entendu, que le général Gomard a changé d'avis. Et que j'étais choquée par ces déclarations au début de la guerre.
C'est-à-dire, donc, expliquez.
Il faut savoir que l'armée française, tout comme les corps constitués français, tout comme l'Église catholique, enfin tout un tas de cercles en France, ont été visés par une offensive de diplomatie et de séduction de la Russie depuis des années. Que des conférences, des colloques, des événements, des voyages en Russie ont été organisés depuis des années pour inviter beaucoup de militaires. Nous sommes frères d'armes, nous avons été ensemble dans la Grande Guerre patriotique. Embrassons-nous, nous sommes frères. C'est vraiment des choses qui ont été calculées et qui ont été très bien faites avec des agents que les poutinistes utilisaient, à qui ils donnaient des moyens. Je pense aux gens qui ont organisé, par exemple.
Donc vous dites certains
je pense que les généraux
du côté pro-russe
étaient. Je dis qu'en tous les cas, les sirènes russes ont intéressé des généraux et qui se sont repris. Il y en a d'autres qui se sont pas repris et je n'aime pas cafeter, donc je ne vais pas dire d'autres noms.
Charles Sapin. Mais
tout de même.
Bonsoir. Charles Sapin nous a rejoint. Bonsoir, journaliste politique au Point, auteur du livre Les moissons de la colère. Merci de nous avoir rejoints. Un mot sur les propos de François-Xavier Bellamy. Je reprends la question que je posais à l'instant. Il dit ce soutien à l'Ukraine, cette étape franchie supplémentaire ce soir, ce n'est qu'à des fins électoralistes. Ce n'est pas sincère. C'est une instrumentalisation à des fins électoralistes.
Les choses sont rarement soit toutes blanches, soit toutes noires. Mais ce qui est certain, c'est que quand on voit cette déclaration du chef de l'État, elle est un peu ambivalente. Il a revêtu ce costume qui est son costume préféré, celui de chef de guerre, mais c'est un chef de guerre en campagne. Il y a cette incarnation de leader européen pour se placer au-dessus du jeu politicien, donc dépassant très largement les européennes, mais en même temps, quand on regarde a posteriori ces déclarations, qui sont en deux temps, elles sont très politiciennes. Vous avez une déclaration dans un premier temps, où il fait le tour d'horizon des périls continentaux et même mondiaux, avec en tête l'Ukraine et la situation à Gaza, en se plaçant comme en première ligne. Ces périls européens lui permettent de dramatiser cette échéance européenne. C'est quelque chose d'ailleurs qui n'est pas nouveau. Il l'a déjà fait en 2017, il l'a fait en 2019, il l'a fait en 2022.
Il est dans son rôle, non ?
Ça dépend ce qu'il en fait. C'est-à-dire quand le chef de l'État dramatise une élection, c'est pour susciter ce qu'on appelle un effet drapeau. Un effet drapeau, et là, ce qu'il a fait, c'est-à-dire l'Europe est mortelle. Or, l'Europe, c'est ce qui vous protège. Hier, du Covid, aujourd'hui, de l'immigration, demain, de Poutine, notamment de ses alliés, suivez mon regard. Or, l'Europe, aujourd'hui, c'est moi. En faisant ça, le chef de l'État ne s'attaque pas tant que ça à la liste Rassemblement National. Puisque l'antimacronisme est le premier moteur de Marine Le Pen et, par extension, de Jordan Bardella. En faisant cela, il asphyxie les autres listes de centre-droit et de centre-gauche en essayant de provoquer en fait, un vote utile et finalement de vulgariser, de simplifier cette élection à un choix binaire.
Pour qu'on se dise, l'Europe, c'est lui, alors on vote pour lui.
Les gentils européens face aux méchants poutinolâtres. Or, en faisant cela, le risque pour le chef de l'État, c'est de fouler aux pieds tout ce qu'il espère protéger, ce qu'il dit protéger, c'est-à-dire la démocratie et ce grand moment dans les urnes qui doit être une expression démocratique.
Avec cette annonce donc d'Emmanuel Macron, qui est l'annonce principale de cet entretien de 30 minutes ce soir au JT du 20h, l'annonce d'envoi de Mirage 2000, des avions de combat français, on regarde cette partie de cet entretien d'Emmanuel Macron.
Demain, nous allons lancer une nouvelle coopération et annoncer la cession de Mirage 2000-5, qui sont des avions de combat français qui permettront à l'Ukraine de protéger son sol, son espace aérien. Et donc, dès demain, nous allons lancer un programme de formation des pilotes et puis de cession de ces avions qui permettra d'ici à la fin de l'année. Alors, la France va s'exprimer pour elle-même demain, mais surtout, nous sommes en train de bâtir une coalition avec d'autres partenaires. Donc, je ne serai pas définitif ce soir sur le nombre.
Et pour qu'on ait une idée,
l'objectif, c'est
quand
que
ces avions seront-ils
livrés ? Comme nos partenaires le font sur le F-16, qu'on puisse le faire. Ce qui est le facteur dimensionnant, c'est le temps de formation des pilotes. Et donc, on va proposer au président Zelensky que les pilotes puissent être formés dès cet été. Il faut normalement 5 à 6 mois. Et donc, que d'ici à la fin de l'année, ils puissent avoir pilotes et avions.
Formés en France ou là-bas ? En France ou en Ukraine ?
En France que nous formerons les pilotes.
Tous les pilotes ukrainiens seront formés en France. Il n'y aura pas de formateurs français en Ukraine.
Pour revenir, c'est la question de la formation, si vous le souhaitez, qui est distincte, mais ça oui.
Qu'est-ce qui a été le déclic ? Jusque-là, on parlait des avions F-16. En juillet dernier, on parlait de cette coalition qui regroupait 11 pays pour former les pilotes, les mécaniciens à ces avions F-16. Pourquoi est-ce que les Mirages, on a attendu autant de temps, j'allais dire ?
Alors, il faut bien comprendre que, dans un premier temps, l'urgence était effectivement les F-16. Le processus est en cours. La complexité, c'est que ce soit les F-16 ou les Mirage 2000 ou d'autres types d'avions, l'Ukraine, l'armée de l'air ukrainienne, elle est au front en permanence, elle est pratiquement usée jusqu'à la corde, et que il faut en fait la reconstruire. Bon, et puis parce qu'il y a une urgence réelle sur la situation, et que la situation militaire est dramatique.
Mais l'urgence, elle a toujours été là.
Oui, mais en fait, il faut bien comprendre, s'inscrire que il y a eu une phase extrêmement importante qui est en cours de montée en puissance, notamment la livraison des obus. Hein, il y a eu une crise des obus il y a à peu près, on va dire, au début du printemps. Et là, petit à petit, on commence à augmenter. Maintenant, la problématique, c'est qu'on a en face la Russie. La Russie qui est la puissance qui agresse l'Ukraine avec une nouvelle campagne, notamment contre les infrastructures énergétiques, et ce qui veut dire que l'hiver prochain va être absolument terrible pour la population ukrainienne. Les Russes tapent sur des barrages, contrairement aux règles du droit international, sur des centrales électriques. Et donc, en fait, il faut qu'on aille plus loin. Et c'est vrai qu'il y a un besoin qui est de permettre à l'Ukraine de protéger son espace aérien. Et il y a une opportunité qui avait été effectivement, comme le disait Nicolas il y a quelque temps, discutée. Mais il fallait aussi arriver à maturité, parce que le problème est que quand vous êtes en guerre, l'Ukraine qui est en état de guerre, il faut aussi, c'est pas aussi facile que ça, de dire, bah tiens, maintenant on va former des pilotes dans tel domaine, des mécaniciens. Et c'est une réorganisation permanente dans un pays qui est sous pression. Donc aujourd'hui, la décision qui a été prise, et il faut pas oublier qu'on est dans un cycle diplomatique extrêmement important. Indépendamment, c'est le hasard. Le 6 juin, c'est le 6 juin. On a donc le sommet avec Joe Biden. Il y a le sommet du G7 dont personne ne parle, mais qui a lieu la semaine prochaine, et les pays du G7 sont des soutiens de l'Ukraine. Et puis, il y a également, quelques jours après, le sommet international en Suisse, et donc tous ces éléments obligent, en fait, à aller très vite pour donner, en fait, des billes aux Ukrainiens. Pourquoi ? Pour être en mesure de rétablir un rapport de force par rapport à Moscou.
Justement, est-ce qu'on va si vite que ça ? On a l'impression quand même que depuis le début de cette guerre en février 2022,
oui,
on a un train de retard, qu'on se met des stops sur d'abord les missiles à longue portée, puis les avions, et on finit toujours par y arriver, mais 2 ans plus tard.
Oui, c'est vrai, mais il faut comprendre aussi que... c'est compliqué. Pourquoi ? Parce que il y a eu un moment, par exemple, on a livré beaucoup de véhicules blindés venant de tous les pays européens, américains et canadiens. Bon, et ben les Ukrainiens, ils n'ont pas su les utiliser correctement. Donc en fait, il y a toute cette progressivité. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, à côté de la livraison des Mirage 2000 et de la formation des pilotes et des mécaniciens, le président de la République a également exprimé la volonté, à la demande des Ukrainiens, d'entraîner, de former une brigade de 4500 hommes. Ça veut dire aussi qu'on est dans une guerre longue. Je rappelle que de l'autre côté, à Moscou, Poutine a changé son ministre de la Défense et a mis à la place un économiste dont la mission, c'est de transformer l'industrie...
faire une industrie
pour
militaire.
En faire une industrie de guerre. Mmh. Voilà. Et donc, c'est pour ça on va plus loin, et que peut-être que demain, il faudra aller encore plus loin. Parce qu'on a... Alors, et je voudrais terminer par ça, c'est que la Russie, non seulement elle attaque l'Ukraine, mais elle nous agresse. On a passé sous silence, on l'a pas évoqué, mais la déstabilisation de nos positions en Afrique. Qu'est-ce que fait l'Afrique, que fait la Russie, notamment via l'Azerbaïdjan, Nouvelle-Calédonie. Tout ça, on le passe sous silence, hein, et il faut le rappeler.
Nicolas Tenzer, aller encore plus loin, ça voudrait dire quoi d'ailleurs ? Là, on envoie des avions maintenant.
Alors, encore une fois, je pense qu'il y a eu effectivement quelque chose, il y a une sorte de progrès, je dirais, moi, on en était quand même encore. On se rappelle en février-mars, où un certain nombre des alliés disaient on va fournir des armes défensives. Comme si d'ailleurs il y avait une totale distinction entre les armes défensives et les armes offensives. Certains ne donnaient que des casques ou des gilets pare-balles, hein, les Allemands notamment au début. Et puis petit à petit, il a fallu monter. Finalement, les Allemands, après beaucoup de discussions, ont cédé par exemple sur les Léopards. On a vu également à un certain moment sur les attaques américains, donc les missiles à longue portée américains, et d'ailleurs les Scalp français, comme les Storm Shadow britanniques, donc missiles aussi à longue portée, ont été bridés. Puis maintenant, on dit non, quand même, on va leur donner leur distance, enfin leur portée plutôt originale. Les avions, ça a été extrêmement compliqué. La possibilité, ou plutôt l'autorisation donnée aux Ukrainiens d'atteindre des cibles situées en Russie. Et tout ceci, je voudrais quand même le rappeler, a coûté des dizaines de milliers de vies. C'est-à-dire que l'absence de décision forte depuis le début, même si après, il y a les coûts de livraison, il y a les temps de livraison, les temps de formation, ça a coûté des vies. Jusqu'où aller maintenant ? Moi, je pense qu'à un certain moment, il faut dire les choses très clairement. On ne gagne pas une guerre par procuration. On ne gagne pas une guerre en dirigeant depuis l'arrière. Il y aura un moment... Aujourd'hui, on a donné, je l'ai encore vu la semaine dernière en Ukraine, on a donné suffisamment d'armes, elles devraient arriver, ils les ont pas encore, pour se défendre contre un certain nombre d'attaques. Attaques volontaires contre des immeubles d'habitation, contre des écoles, contre des marchés, je veux dire. Les crimes de guerre contre l'humanité, de génocide et d'agression commis par la Russie sont des crimes qui sont absolument abominables. Ce sont les pires crimes qui ont été commis au XXIe siècle avec ceux de Bachar el-Assad.
Donc, qu'est-ce que vous dites ? Qu'est-ce qu'il faut faire, alors ?
Je dis, il y a un moment, si l'on veut buter, je reprends les termes, volontairement, la Russie hors d'Ukraine, et pas uniquement de dire on va défendre l'Ukraine, faire gagner complètement l'Ukraine, il faudra que nous nous engagions. Je ne suis pas en train de dire qu'on va envoyer nos enfants combattre.
Bah,
je suis pas
peu.
En train de
ça
parler
quoi,
de mobilisation. Mais c'est-à-dire que vous avez dans tous les pays quand même européens, vous avez un certain nombre de troupes qui sont des soldats, qui sont des professionnels, d'abord. Peut-être qu'il ne sera pas nécessaire. Et je pense que autant que possible, il faudra l'éviter d'envoyer des troupes au sol. En revanche, frapper directement des cibles russes au moyen de nos avions, au moyen de nos missiles, au moyen des missiles qui peuvent être aussi tirés depuis la mer, je pense qu'il faudra aller jusque bout. La vraie question, c'est quel objectif, je dirais même quel but de guerre, nous, alliés, je ne parle pas que des Français, parce que ceci doit être fait en commun, quel but de guerre nous donnons. Tant qu'il y aura une parcelle de territoire ukrainien occupé par la Russie, ça voudra dire des enfants qui seront déportés, ça voudra dire des femmes violées, ça voudra dire des hommes assassinés et torturés, des femmes aussi d'ailleurs. Donc, est-ce qu'on le donne à Poutine un permis
donc,
de tuer ?
Vous, on ne va pas assez loin. On va poursuivre le débat
voilà,
en plateau,
mais ce
parce
sera,
que je sais que vous avez tous beaucoup de choses à dire.
Il est progressif, il y a un problème d'opinion publique, ça c'est parfaitement évident.
Mais
ça,
juste avant, je sais que Manuel Bompard nous attend. Bonsoir Manuel Bompard, coordinateur national de la France Insoumise et député des Bouches-du-Rhône. Vous suivez le débat sur BFM TV. Est-ce qu'envoyer des mirages, comme l'a annoncé Emmanuel Macron ce soir, c'est suffisant ou faut-il aller encore plus loin ?
D'abord, je veux vous dire quand même que ce soir, la ficelle était vraiment très grosse. C'est-à-dire que le président de la République s'exprime à l'occasion des commémorations du débarquement. C'est légitime, c'est son droit. Mais qu'il détourne en quelque sorte l'objet de son intervention pour intervenir dans le débat des élections européennes, je pense que ça n'a échappé à personne. Et vous aurez remarqué d'ailleurs que ça n'a pas indigné que moi, en tant que député représentant de la France Insoumise, mais d'autres représentants de l'opposition qui ont fait la même remarque que moi. Pour le reste, du point de vue des annonces qui ont été faites, d'abord je veux dire, et ça fait le lien avec ce que je viens de dire à l'instant, que je ne vois pas quel était le caractère d'urgence qui nécessitait de s'exprimer à 3 jours des élections européennes pour faire ces annonces. Et sur le fond des annonces, moi je dis la même chose que ce que nous disons depuis le début, c'est qu'on ne voit pas de stratégie d'ensemble, que le président de la République distille au fil des jours des annonces d'envoi d'armes, de choses qu'il va faire.
Enfin,
de choses
la stratégie d'ensemble concernant l'Ukraine, elle est assez claire, non ? C'est de la soutenir coûte que coûte.
Non, non, justement, je pense que cette stratégie n'est pas claire, qu'elle ne donne pas lieu, comme ça devrait être le cas dans toute démocratie digne de ce nom, à un débat parlementaire, et qu'avant d'annoncer qu'on va envoyer telle ou telle arme, on devrait en discuter à l'Assemblée nationale avec l'ensemble des formations politiques de ce pays. Et notamment,
est-ce que vous, à la France Insoumise, vous auriez été pour alors ? Est-ce que vous auriez été pour l'envoi de ces armes, de ces mirages ?
Je vous réponds, j'observe qu'il y a un sujet qui n'est jamais évoqué par le président de la République depuis le début, c'est quelles sont les initiatives que prend la France sur le terrain diplomatique pour faire en sorte que cette guerre s'arrête le plus rapidement possible. Vous avez évoqué, un de vos intervenants tout à l'heure sur le plateau, a évoqué par exemple un sommet qui va se tenir en Suisse au mois de juin. Pourquoi la France n'en est pas parmi les puissances organisatrices ? Qu'est-ce que la France fait pour essayer de faire en sorte de mettre l'ensemble des belligérants autour de la table pour faire en sorte qu'on puisse trouver les conditions d'un accord de paix qui permette que cette guerre s'arrête le plus rapidement
possible ? Parce que pour l'instant, et là, pour le coup, Emmanuel Macron vous a répondu indirectement ce soir, il dit oui, la paix doit arriver par des négociations, mais là, ce n'est pas le moment parce que la Russie continue d'avancer en Ukraine.
Oui, mais d'accord, mais à quel moment ça va être le bon moment, madame ? Parce que vous n'avez aucune garantie que la Russie ne va pas continuer à avancer en Ukraine, ce que je ne souhaite pas, bien évidemment. Donc, il faut, en parallèle de nos efforts pour aider les Ukrainiens à se défendre, en parallèle de cela, il faut que la France prenne la tête du camp de la paix, mette l'ensemble des puissances autour de la table pour essayer de trouver les conditions de ce qui serait un accord de paix. Parce que sinon, on renvoie en permanence au calendrier grec la possibilité d'une sortie diplomatique, alors que tout le monde sait qu'à la fin, pour terminer une guerre, il y aura forcément une négociation. Voilà ce que j'ai envie de vous dire. Quant aux annonces d'armes qui sont livrées, etc., moi je reste sur la doctrine qui est la nôtre depuis le début. Aider l'Ukraine à se défendre, oui. Participer à un risque de surenchère militaire, de surenchère guerrière et devenir co-belligérant, non.
Et est-ce que là, on devient, en envoyant des mirages, des co-belligérants selon vous ?
De ce que j'ai compris, ces avions permettraient pas de frapper ou ne seraient pas habilités à frapper sur le sol russe, puisque ce sont, si j'ai bien compris, des avions qui permettent seulement des interventions sur de protection en quelque sorte du ciel ukrainien. Donc si c'est bien cela, il ne me semble pas par là même qu'on passe la frontière de la co-belligérance, mais encore une fois, vous entendez que ce sont des sujets sensibles et qu'il me semble que ces sujets, ils devraient à minima faire l'objet d'un débat à l'Assemblée nationale et qu'à l'Assemblée nationale, on puisse débattre, discuter de cette stratégie d'ensemble parce que sinon, on a l'impression de devoir commenter chaque semaine ou chaque mois les nouvelles annonces sans à aucun moment savoir où on va, quels objectifs nous nous fixons et comment on fait en sorte d'avancer dans le sens de ce qui devrait être, à mon avis, la seule position raisonnable, c'est-à-dire faire en sorte que cette guerre s'arrête le plus vite possible.
Alors justement, l'Assemblée nationale, il y a un événement important dans l'hémicycle demain, en tout cas un événement rare, une allocution de Volodymyr Zelensky qui était en Normandie aujourd'hui, qui se rend dans l'hémicycle demain pour faire le point justement sur le soutien nécessaire pour sa guerre. Déjà, est-ce que vous y serez, vous ?
Ben non, moi je suis à Marseille, donc je n'y serai pas, mais je veux vous dire franchement, la manière même avec laquelle vous posez la question montre qu'il y a quand même un problème. C'est que, pardonnez-moi, mais nous sommes députés à l'Assemblée nationale, nous sommes représentants du peuple français. Nous sommes là pour discuter, pour débattre et pour décider de quelle doit être la stratégie de la France vis-à-vis des conflits dans le monde et en particulier vis-à-vis de la situation en Ukraine. Nous ne sommes pas là pour applaudir un président de la République d'une autre puissance sans à aucun moment avoir un moment pour débattre de qu'est-ce que la France devrait faire. Donc je trouve qu'il y a une forme, si vous voulez, de transformation du rôle que devrait être celui de l'Assemblée nationale, que je trouve quand même particulièrement dérangeant. Nous n'avons jamais eu, depuis le déclenchement par la Russie de la guerre en Ukraine, un moment de débat suivi d'un vote sur les moyens que se fixe la France, les objectifs que se fixe la France et la stratégie qui est celle de la France. Ben ça, ça me pose problème.
Donc la venue de Volodymyr Zelensky demain, vous la trouvez déplacée ?
Bah, je trouve, comme je n'ai pas d'ailleurs été le seul à le dire, je crois même que le président du groupe Les Républicains, vous voyez, qui n'est pas de ma famille politique, lui-même a dit quand même que à deux jours des élections européennes, sans qu'à aucun moment nous puissions avoir un moment de débat à l'Assemblée nationale sur ce que la France fait, était quand même posé quand même un certain nombre de questions. Après, je ne veux pas m'en prendre à Monsieur Zelensky, c'est pas mon sujet. Je vous dis juste que, pardonnez-moi, mais les parlementaires de l'Assemblée nationale ne sont pas là pour être le public qui écoute le président de l'Ukraine. Nous sommes là pour pouvoir quand même avoir notre mot à dire sur la position qui est celle de la France.
Une question sur ce tout dernier sondage en vue des élections. J'imagine que vous avez un peu le sourire ce soir. Sondage Ipsos qui est sorti aujourd'hui, Manon Aubry est à 9%. Elle gagne un point dans les sondages. Comment vous l'expliquez ? Il y a un réveil la France insoumise ?
Non, mais moi je dis depuis plusieurs semaines, et vous pourrez reprendre mes déclarations, que certainement le résultat de l'élection le 9 juin ne serait pas celui qui a été annoncé dans les sondages depuis le début. Et je pense qu'on y est encore. Donc je ne vais pas davantage commenter le sondage de ce soir que les autres. Je dis aux gens qui nous écoutent, les élections européennes, ça se passe dimanche, c'est le 9 juin, il n'y a qu'un seul tour. Mobilisez-vous massivement, parce qu'en toute hypothèse, le résultat à la fin ne sera pas celui qui a été annoncé par les sondages depuis plusieurs semaines et depuis plusieurs mois. Et ce que j'observe, c'est qu'il y a une mobilisation, en particulier de la jeunesse, en particulier des quartiers populaires, qui ont envie de dire des choses dans ces élections européennes, que ça soit sur la question du pouvoir d'achat. C'est au niveau européen, par exemple, que se détermine la manière avec laquelle est fixé le prix de l'électricité, que ce soit sur la position de la France sur la scène internationale. J'ai dit quelle était notre position pour la paix en Ukraine. Je veux dire aussi que le président de la République, ce soir, a perdu une occasion de se taire, en quelque sorte, sur la question et la situation à Gaza, parce qu'il n'a rien dit qui va permettre de mettre un terme au massacre et au génocide qui est en cours à Gaza aujourd'hui. Il a écarté l'hypothèse de la reconnaissance de l'État de Palestine. Il n'a pas évoqué à une seule reprise la possibilité, par exemple, d'infliger des sanctions au gouvernement de M. Netanyahou, de décréter un embargo sur les armes ou de suspendre les accords commerciaux qui existent aujourd'hui entre l'Union européenne et l'État d'Israël. Et ces questions-là aussi, elles sont au cœur de la campagne des élections européennes. Et donc je dis aux gens qui nous écoutent, puisque le président de la République ne veut pas le faire, si vous voulez lui envoyer un signal clair pour qu'il fasse enfin quelque chose pour que ce massacre s'arrête, il faut aller voter massivement ce dimanche pour la liste de la France insoumise conduite par Manon Aubry.
Et il a rappelé, Emmanuel Macron, qu'il souhaitait un cessez-le-feu. Merci beaucoup. Merci à vous, Emmanuel.
Il rappelle, il fait des phrases sur le sujet, mais il ne se dote d'aucun des moyens qui permettraient effectivement de créer les conditions pour que ces cessez-le-feu arrivent le plus rapidement possible, pour que la libération des otages arrive le plus rapidement possible. Pour ça, il faut que la guerre s'arrête. Et pour ça, on a des leviers d'action. Et je ne comprends toujours pas pourquoi le président de la République ne veut pas les utiliser.
Merci. Merci, Emmanuel Bompard.
Merci à vous.
D'avoir pris le temps de répondre à nos questions depuis Marseille. Ce soir, je vais réagir et rebondir plutôt sur ce qu'il a dit concernant la venue de Volodymyr Zelensky demain. C'est la deuxième fois, demain, dans l'hémicycle. Il était en Normandie aujourd'hui pour les commémorations. C'est la deuxième fois depuis l'invasion de l'Ukraine qu'il intervient. La dernière fois, c'était par visioconférence et c'était peu de temps après le 24 février, après l'invasion. Il le dit, en gros, Emmanuel Bompard, en reprenant les mots de Jean-Luc Mélenchon, on va pas se mettre à applaudir quelque chose qu'on n'a pas souhaité, voilà, qu'on n'a pas demandé, on nous a pas demandé notre avis, donc pourquoi finalement accueillir Volodymyr Zelensky à l'Assemblée nationale ?
C'était un peu confus, on n'avait pas souhaité l'apartheid, on a applaudi Nelson Mandela quand même, donc la position de la France insoumise montre son trouble par rapport à un conflit au départ duquel elle était dans des zones un peu grises tout de même. Le même Manuel Bompard, quand la Cour pénale internationale a lancé un mandat d'arrêt contre Vladimir Poutine, a déclaré que ça ne servait à rien, que c'était inefficace et que ces pays ne menaient à rien, et il s'est félicité de la même chose quand ça a été contre Netanyahou. Donc vous voyez, ils voient midi à leur porte et ça les embête beaucoup quand même, cette résistance de l'Ukraine. Ça les embête beaucoup.
Moi, je voudrais rappeler que en novembre 1944, quand la France était encore en guerre, le général de Gaulle a parlé devant les deux chambres du Congrès américain. Il était invité par Franklin Roosevelt pour parler, étant le représentant de la résistance d'un pays qui se battait pour sa liberté. Et ça, je pense que le 6 juin, ça vaut le coup de rappeler ça. Nous avons depuis reçu des chefs d'État étrangers devant les chambres du Congrès, mais je ferai plutôt aujourd'hui le parallèle entre ce discours du général de Gaulle en novembre 44 au Congrès à Washington et celui de Vladimir Zelensky demain à l'Assemblée nationale.
Et il l'a rappelé, Emmanuel Bompard.
Emmanuel Macron.
Et Emmanuel Macron, voilà, je fais un petit mix. Le député, le chef de file, Olivier Marleix, chef de file des députés LR à l'Assemblée, a jugé déplacé d'inviter à 48 heures des élections européennes le président Vladimir Zelensky. Il n'y a pas que la France Insoumise qui critique cette venue un peu dernière minute du président ukrainien dans l'hémicycle.
Je pense que tout dépend de la conception que l'on a tout simplement de la guerre russe, guerre d'extermination contre l'Ukraine. C'est-à-dire que soit l'on considère que cette guerre et cette résistance des Ukrainiens, le combat des Ukrainiens, c'est un combat qui est existentiel pour nous, qui est le combat pour l'Europe, que c'est notre guerre, que c'est véritablement ce qui va être le marqueur qui va déterminer que les 10 ou 20 ou 30 prochaines années vont tomber d'un côté ou de l'autre. Vont être soit celles que promettait 1945, soit un 1945 à l'envers. Je crois que c'est ça qui va véritablement. Et soit on a cette conception-là, et qu'on est du côté effectivement des combattants de la liberté, qu'on est du côté effectivement de ceux qui ont débarqué, du côté de mes parents qui étaient résistants. Pour moi, c'est la continuité de la même histoire. Soit effectivement, on est complètement indifférent à cela. Et je crois effectivement, voilà, pour moi, c'est vraiment
bon
la signe.
Enfin, c'est un bon choix.
Non, voilà, mais pour moi, fait, c'est, alors après, chacun c'est, peut c'est, avoir son avis.
Alors, Charles Sapin et ensuite Charles Chassini.
Je termine juste une seconde. C'est ça la signification. C'est ça la signification. Je précise quand même un point. Je précise juste un dernier point. Quand on parle. Oui, mais c'est la signification pour moi, pour un certain nombre de Français. C'est la signification, voilà. Et c'est la signification, je pense.
Ce qu'a soulevé Olivier Marleix, c'est ce qu'a soulevé d'ailleurs pas mal d'opposition. C'est-à-dire que le fait de faire venir le président Zelensky le dernier jour utile d'une campagne, qui plus est pour l'applaudir, donc c'est-à-dire entériner une politique qui a déjà été décidée et sur lesquelles, finalement, de façon directe ou indirecte, la population française n'a pas été questionnée. Vous parliez tout à l'heure de l'opportunité ou non d'envoyer des soldats français en Ukraine. Aujourd'hui, ce n'est soutenu que par 22% des Français. Or, il y a une phrase, moi, que j'aime bien, qui vient de Talleyrand, mais qui attention, cocher, rouler doucement, puisque je suis pressé. Et c'est vrai que quand vous partez, vous disiez on ne va pas assez vite. Moi, ça me rappelle un peu les sujets environnementaux, c'est pareil. Ne refaisons pas cette même erreur où, à vouloir aller plus vite, mais vous avez des décisions qui sont prises de façon...
Attendez, on parle de la Constitution de la Ve République. La Constitution de la Ve République donne au président de la République la conduite de la politique étrangère et de la défense de la nation.
Alors attendez, allez au bout de votre argument.
Non, mais vous dites une contre-vérité, elle a déjà été dite sur ce plateau, vous dites une contre-vérité.
Non, j'aimerais terminer mon propos, vous ne savez pas ce que je vais dire.
Le président de la République, vous venez de le dire.
Mais non, je n'ai pas terminé mon propos.
Vous n'a pas à soumettre ça à
l'Assemblée
nationale.
Vous ne savez pas ce que je vais dire. Donc c'est incroyable.
Vous venez de dire qu'il fallait une consultation à la Suprême.
Laissez-moi terminer mon propos et peut-être que vous pourrez commenter après, si vous voulez. Et nous aurons une discussion avec grand plaisir. Si vous voulez, ce qui s'est passé, d'ailleurs, ça s'est vu sur cette question environnementale, c'est un péril très grave, le réchauffement climatique. Donc vous avez eu la préservation de l'environnement était cause d'unanimité dans les sociétés européennes ces 10 dernières années. Qu'est-ce qui s'est passé ces 5 dernières années? Parce que ce n'est plus le cas. Parce que vous avez, dans l'empressement, tout un tas de législations très contraignantes qui ont été prises pour justement faire face à ce réchauffement climatique. Sauf que il y a une étape qu'on a oubliée, c'est la pédagogie. C'est d'embarquer les sociétés européennes dans ces choix. Et vous avez, du coup, des forces populistes qui montent partout en Europe. Je suis allé aux Pays-Bas. C'est très simple. Il y a une décision qui vient de l'Union européenne qui a été prise contre les émissions d'azote. Du jour au lendemain, vous avez plus de 3000 fermes qui se sont retrouvées leur permis d'exploitation a été retiré, alors qu'ils étaient là parfois depuis 8 ou 9 générations. Ces gens-là se sont mobilisés. Vous avez eu les premières mobilisations de tracteurs. En 3 ans, c'est devenu un parti politique.
Alors attendez, là non, on est quand même parti très loin de la logique.
C'est un exemple. Si vous voulez, c'est quand vous prenez des décisions de façon tout à fait verticale et que vous n'embarquez pas les populations européennes, que vous ne leur donnez pas l'occasion de s'exprimer et que finalement on leur dit plus vite, plus vite, plus vite. Les peuples européens s'expriment d'une certaine façon. Et si on le voit, et je reviens sur cette situation ukrainienne, qu'est-ce qu'on voit chez les forces populistes en Europe ? Viktor Orban ne fait campagne que sur cette situation en Ukraine. Votez pour le parti de la paix, et ça marche. La dernière affiche de campagne de Matteo Salvini, patron de la Lega en Italie, qui est une force nationale populiste, est une affiche avec moins d'Europe, plus d'Italie, moins d'Europe. Vous avez une photo d'Emmanuel Macron.
Oui, mais c'est Mélanie qui a gagné.
Avec un casque lourd et un gilet pare-balles. Et à côté, vous avez Matteo Salvini qui tend une croix. Si vous voulez, ça devient un clivage et un ressort pour des forces nationalistes. Je ne crois pas que c'était le but du départ.
Je suis d'autant moins... Enfin, d'abord, une bonne partie des populistes européens, les Polonais, les Italiens de Mélanie, qui ont une majorité pratiquement absolue, et même les Espagnols de Vox, sont au contraire pour l'Ukraine. Donc l'idée qui...
Ce sont des nationaux conservateurs, mais si vous voulez, vous avez les nationaux populistes comme Geert Wilders, du PVV, en Pays-Bas, qui a gagné les dernières élections législatives, et qui est en dynamique, qui a donné en tête aux Européennes.
Je voulais réagir.
Non, mais d'abord,
que dans notre
Madame
pays,
Moutet,
c'est au président de décider ça.
Anne-Elisabeth, ce qu'a voulu dire Charles Sapin, je vais me faire son avocat, c'est qu'il a déploré, déploré le fait...
Entre Charles, on soutient.
Exactement. Charles d'Angleterre, Charles Sapin, Charles... il a déploré le fait qu'on oblige des parlementaires auxquels on n'a pas donné voix au chapitre sur le sujet. Vous rappeliez les dispositions de la Constitution, d'accord, c'est prévu, mais du coup, on n'a pas à les forcer à applaudir Zelensky, ce qui revient, même si on a envie de l'applaudir, Zelensky, évidemment, qui se bat héroïquement depuis le début. Je ne sais même pas comment il tient, d'ailleurs. Mais bon, physiquement, psychologiquement. Mais faire applaudir les parlementaires dans l'enceinte de l'Assemblée nationale, ce président, ça revient à leur faire ratifier une politique de la France qu'ils n'ont pas voté, à laquelle ils n'ont pas participé.
Je trouve ça un message.
Donc c'est là qu'on peut comprendre les critiques au-delà de l'aspect électoral.
Il aurait fallu un débat.
Alors, n'hésite pas à instrumentaliser Zelensky.
Si vous permettez, je rappelle qu'il y a 2 commissions. La commission de défense et la commission des affaires étrangères, dans lequel il y a très régulièrement à la fois des points de situation et qu'il y a un véritable travail qui est fait, notamment sur le soutien et la guerre en Ukraine. Maintenant, il y a quand même un point qui est extrêmement important. Je comprends, je ne me pose pas sur les approches politiques qui ne sont pas de mon ressort, mais c'est de bien comprendre que la guerre aujourd'hui en Ukraine, elle est bien sûr existentielle pour l'Ukraine, mais on le voit et on l'a vu sur ce plateau avec le porte-parole de l'ambassade de Russie, donc une voix officielle disant, menaçant bien sûr l'Ukraine, dénazification, démilitarisation, démembrement, parlant effectivement de la non-légitimité de Volodymyr Zelensky et ainsi de suite, et avec une attitude extrêmement agressive, et on le voit au quotidien, vous l'avez rappelé par exemple, les États baltes, la Finlande, la Pologne, et ainsi de suite. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que ça nous semble loin, c'est à 1500 kilomètres, mais la menace, elle est désormais réelle. Et donc, il y a urgence. Il faut...
Et donc, pas le temps de faire un débat parlementaire sur ces questions-là.
Je ne me pose pas là-dessus. Il y a une urgence diplomatique. Pourquoi ? Parce qu'on le voit bien, Vladimir Poutine, il connaît son calendrier. Premièrement, effectivement, il n'a cessé de vouloir déstabiliser la plupart des pays européens pour le vote du 9 juin. On pourrait faire une liste d'actions qu'il a menées dans tous les pays de l'Union européenne pour déstabiliser le vote, pour obtenir... majorité anti-européenne. Il a une autre échéance qui sont les Jeux Olympiques de Paris pour lequel il a un objectif, c'est que ça soit un échec organisationnel et il va utiliser tous les moyens.
On n'aura pas besoin
non,
de lui.
Mais attendez, c'est autre chose.
Vous oubliez, par exemple, les sabotages qui sont en cours sur les réseaux ferroviaires en Allemagne, en Pologne, les menaces qui sont sur les infrastructures vitales en Europe. Et ensuite, il joue, bien sûr, il sait qu'il a une date qui est celle des élections américaines. Donc, pour lui, son objectif, c'est de faire un maximum de dégâts pour, eh bien, on verra bien, pour « dealer », entre guillemets, avec le...
Mais j'en reviens à la question soulevée par Manuel Bompard. C'est une question légitime. Pourquoi est-ce que les oppositions n'ont pas été concertées sur ces questions-là, qui sont quand même des questions importantes, défense,
les oppositions sont en permanence consultées et concertées dans les instances que décrivait le général, c'est-à-dire qu'à l'Assemblée, il y a des commissions, il y a des experts, et on se parle beaucoup. Vous avez même des parlementaires qui sont habilités au secret défense et qui en savent autant ou presque autant que le pouvoir exécutif. De plus, il y a un débat public. Les oppositions ont pu, à longueur de plateau télé, dire ce qu'elles pensaient de l'Ukraine, de Poutine, de ce qu'il fallait faire. On a entendu les positions de tout le monde sur les instructeurs, etc.
Donc c'est de la mauvaise foi là.
Mais ce que veulent les oppositions, ce n'est pas être consultées, c'est avoir une tribune, c'est pouvoir faire elles aussi œuvre électorale en disant tout le mal qu'elles pensent du chef de l'État, quoi qu'ils disent. C'est la logique de la politique, on ne peut pas leur reprocher, mais il ne faut pas qu'elles dénoncent l'hypocrisie du président de la République en construisant une hypocrisie plus haute que celle du président de la République.
Je vais juste dire un point, c'est-à-dire que si on avait consulté les Français le 18 juin 1940,
exactement,
sur l'appel du général de Gaulle, il y aurait eu peut-être moins de 22%.
Voilà. C'est sûr.
Donc je dis quand même.
Mais si on les avait consultés en mars 1944, ensuite, ils auraient voté Pétain.
Oui, voilà. Il ne faut pas oublier, effectivement, qu'il y avait plus de collaborateurs en France que de résistants. Voilà.
Mais vous avez raison.
Il ne s'agit pas de minorer le péril russe.
Le mépris de la population. Les Français sont pétainistes.
Non.
Emmanuel Macron, c'est le général de Gaulle.
Mais non,
Charles. C'est ça que Nicolas Pétain.
Il ne vaut jamais.
Charles. Il n'était pas le général de Gaulle. J'ai suffisamment critiqué quand il était faible de la Russie.
Charles. Il ne faut jamais évacuer le peuple. Je suis d'accord avec toi. Mais attention, à le faire n'importe quand, n'importe comment, sur n'importe quel sujet, on tombe dans la magnifique phrase de Victor Hugo, « Parfois, la foule trahit le peuple ».
Je la connais, cette phrase, mais bon.
Emmanuel Macron, qui s'est voulu en tout cas rassurant face au risque d'ingérence russe sur le sol français, et même au risque d'attentats russes sur le sol français, dans un contexte qu'on connaît. Hier, on a les services de renseignement ont interpellé ce russo-ukrainien originaire du Donbass qui fabriquait des explosifs dans sa chambre d'hôtel à Roissy. On écoute là-dessus Emmanuel Macron.
Depuis le premier jour, les Russes menacent. De la bombe nucléaire, de telle ou telle attaque, ça ne change rien. Le tout, c'est que nous ne soyons pas en faute, nous ne le sommes pas. On est dans ce cadre. Donc il faut prendre cela comme des menaces, un signe aussi de fébrilité de la part de la Russie. Mais nous nous sommes organisés, si je puis dire, pour faire face à tous les risques. Les attaques cyber, les risques de provocation, comme on en a eu encore ces derniers jours, les attaques informationnelles. Et en effet, qui des services spéciaux ou des gens qu'ils actionneraient pour essayer telle ou telle action, nous sommes prêts à cela, nous sommes équipés, nous nous préparons.
Est-ce que vraiment on est prêt, on est équipé? Je rappelle cette note du renseignement allemand qui affirme qu'il y a un vrai risque d'attentat russe sur le sol français. Il n'y a pas que la menace islamiste, visiblement. Est-ce qu'on est prêt à contrecarrer ça, à contrecarrer cette guerre hybride et ces ingérences? On parle de ces cercueils déposés au pied de la Tour Eiffel. Est-ce qu'on est prêt?
En tout cas, tous les services de l'État sont mobilisés. Je prendrai un exemple très concret. En Afrique du Sud, hier, l'ambassade russe a diffusé une vidéo présentant, soi-disant, des soldats français qui se rendaient sur le front ukrainien. Donc, une fake news, comme on dit. Et ben, l'ambassade de France en Afrique du Sud a immédiatement réagi de manière très habile. Autre exemple de manipulation. Ce sont les affiches que Moscou a mis en place dans le métro et le bus, les stations de bus autour de l'ambassade de France, où on voyait un soldat français et dire « rendez-vous ». Et quelle était l'image qu'ils ont utilisée comme support? Celle d'un officier de la milice, bien sûr, pour signifier que tous les Français sont des nazis. Donc, il y a Bah oui, c'est une.
Non, mais c'est le.
Bien sûr.
C'est leur procédé qui me consterne.
Bien sûr, mais il faut bien voir que là, tous les services sont mobilisés avec effectivement une guerre hybride, avec, vous l'avez souligné, des menaces terroristes dans tous les sens. Alors, il faut bien comprendre aussi que nous travaillons avec nos partenaires européens, occidentaux et d'autres pays, parce que la désorganisation ou des incidents pendant les Jeux Olympiques ne concernerait pas que la France. Mais c'est la raison pour laquelle la plupart des pays européens vont d'ailleurs envoyer des contingents de policiers pour nous aider, pour d'ailleurs avoir un contact avec leurs propres supporters. Donc c'est un travail énorme. Maintenant, effectivement, il faut être conscient que Vladimir Poutine a un objectif, c'est faire échouer les Jeux, d'autant plus que lui, c'est simple, les athlètes russes ne participent pas aux Jeux, ou en tout cas, ils le font sous bannière neutre. Donc de toute façon, pour lui, un échec organisationnel, ça ne le dérange pas, bien au contraire. Et donc, ce devoir de vigilance qu'a rappelé le président de la République ce soir.
Le président de la République qui est revenu aussi sur l'arrestation aujourd'hui d'un Français en Russie, accusé d'espionnage. Il nie les accusations d'espionnage. Il dit il s'agit bien d'un Français. On va écouter tout de suite Emmanuel Macron.
Un de nos compatriotes a été arrêté en Russie. Et donc, il s'agit, pour être très clair, parce que beaucoup de choses ont été dites par les autorités russes sur son sujet, il s'agit d'un de nos compatriotes qui travaille pour une organisation non gouvernementale suisse, qui a été fondée par l'ancien secrétaire général des Nations Unies, Kofi Annan, et qui fait de la diplomatie, des travaux de discussion. Je le dis parce que c'est important, c'est un compatriote français, il travaille pour une ONG suisse, et qui donc sert beaucoup de grandes figures internationales. En aucun cas, ça n'était quelqu'un qui travaillait pour la France. Maintenant, nous sommes très vigilants, il recevra toutes les protections consulaires qui conviennent dans un tel cas. Mais je veux ici rétablir la vérité face aux intoxications qu'on entend.
Et il est accusé par la Russie d'avoir collecté des informations sur les activités militaires russes pouvant être utilisées contre la Russie, d'où son arrestation. Ça, c'est la version russe. Évidemment, que sait-on sur ce Français?
Guerre plus que ce qu'on a dit, le président de la République, qui a pris ses distances avec, puisqu'il dit qu'il ne travaillait pas pour la France. C'est un citoyen français, il a droit à toute l'assistance consulaire, mais la France n'est pas concernée, puisque c'est une ONG suisse. Donc il y a une prise de distance avec les actes de cet individu. Évidemment, la coïncidence est un peu grosse.
Oui. Au lendemain de l'arrestation
d'un russe, même si il est russe du Donbass, en tout cas russophone, d'avoir cette arrestation.
Et donc, ce Français qui a été arrêté, travaille pour une ONG et vit en Suisse. Hein. Donc, il n'est pas. C'est la raison pour laquelle. D'ailleurs, il y aurait des images montrant son arrestation qui a été filmée en quelque sorte en Russie. Donc, il y a une forme d'instrumentalisation. Le rappel de la protection consulaire. Et je rappelle que nous avons toujours un ambassadeur à Moscou et un consul. Et donc, on va voir la suite dans les jours à venir.
Alors, il faut aussi rappeler que, je dirais, l'arrestation de ressortissants de pays qui sont considérés comme des menaces par la Russie, ce n'est pas quelque chose de récent.
Une joueuse de basket.
Oui, et pensez également à Ervan Gershkovitch, qui est le journaliste du Wall Street Journal.
Toujours détenu.
Qui est détenu depuis, je crois, 430 et quelques jours. Donc ça fait plus d'un an, bientôt un an et demi.
Accusé d'espionnage alors qu'il enquêtait sur l'organisation Wagner.
Voilà, exactement. Et donc, en fait, ce n'était évidemment pas un espion, c'est quelqu'un qui faisait son travail de journaliste. Et d'ailleurs, c'est ce que nous disent un certain nombre de nos collègues journalistes en Russie, certains d'entre elles ou d'entre eux se sentent aujourd'hui, je dirais, menacés. C'est-à-dire qu'ils sont dans une situation précaire parce qu'ils savent très bien qu'en fonction de la relation que leur pays a avec la Russie, ils peuvent servir de monnaie d'échange et c'est très facile de trouver n'importe quel prétexte d'espionnage, soi-disant. C'est très facile de trouver de la drogue ou d'autres substances dans une valise qui a été mise par les services. Vous avez toutes sortes de manipulations qui ne sont malheureusement pas nouvelles et qui risquent de s'intensifier. De même que toutes les menaces d'attentats, les menaces de terroristes, les menaces contre les infrastructures énergétiques, contre les dépôts de munitions, contre les systèmes d'assainissement d'eau, plus les cyberattaques sur une série de... On en a vu quelques-unes.
Avec cette logique de vengeance, vous arrêtez un russo-ukrainien le lendemain comme par hasard.
Alors, c'est même pas de la vengeance, c'est-à-dire que c'est une offensive, c'est-à-dire que devant des mesures qui, spécifiquement de la France, font un peu peur quand même à Vladimir Poutine, la résolution nouvelle des alliés avec effectivement les frappes en profondeur sur le territoire russe, avec la livraison d'armes à l'emporter, avec un peu plus d'avions, certains vont arriver quand même bientôt, quand même des positions plus claires, ça fait peur à la Russie, elle ne peut pas répliquer sur le terrain. Ça, c'est parfaitement évident. Elle comprend que les lignes rouges, tous les discours qu'on a entendus, la peur de l'escalade, la peur de la menace nucléaire, tout ça, maintenant, quand même, les alliés considèrent ça, justement, comme finalement des tactiques, des récits qui visent à nous autodissuader. Et donc, elle cherche à répliquer par tous les moyens.
Et il faut se rappeler, par exemple, que la Russie peut faire pire. En Grande-Bretagne, elle a assassiné des gens, elle a assassiné des émigrés, des gens réfugiés, justement, pensant qu'ils avaient échappé au régime russe. Elle a empoisonné tout un quartier de Salisbury parce que, avec un poison extrêmement dangereux pour tuer ou essayer de tuer un couple russe. Elle a aussi assassiné des gens en leur faisant boire du polonium dans du thé.
Et ça pourrait très bien arriver en France.
Ça pourrait tout de suite arriver en France. Oui.
Emmanuel Macron, qui a donc pris la parole, qui a fait des annonces concernant l'envoi d'armes à l'Ukraine, qui a pris la parole en ce 80e anniversaire du débarquement allié en Normandie, à 3 jours du scrutin, c'est pour ça que cette prise de parole, elle fait un petit peu polémique. Il explique, lui, il se justifie. On écoute le président.
Parler un 6 juin est une chose importante pour pas qu'on confonde la mémoire et ce qui se passe dans la vie de la nation. Et ce n'est pas moi qui ai choisi la date du 6 juin, elle est là. Et parler des européennes au moment où nous vivons, j'essaierai de dire pourquoi, c'est essentiel pour la vie du pays et le cours de la nation. Donc je pense que c'est aussi mon rôle, il faut le faire à la place qui est celle du président de la République. J'ai du mal à comprendre pourquoi parler du débarquement, parler de ce qui se passe en Russie, parler de ce qui se joue avec ces élections européennes, c'est ne pas être dans mon rôle.
Voilà, il ne comprend pas la polémique, Charles Chapin.
Il comprend pas la polémique, qui pourtant on la comprend très bien. C'est-à-dire que vous posiez la question un peu plus tôt, est-ce qu'il instrumentalise finalement ce débarquement et ce sujet, et est-ce qu'il instrumentalise la question de l'Ukraine ? Moi, ça fait 40 minutes que je suis sur ce plateau et finalement, la stratégie du chef de l'État marche très bien. On est à 3 jours d'une élection nationale, la seule du quinquennat. On ne parle que de la Russie. C'est intéressant. Pourquoi il fait ça ? On a souvent posé la question de dire non, mais le chef de l'État n'avait pas le choix. Il n'a pas choisi la date du débarquement. Il n'a pas choisi la date du débarquement. C'est vrai, mais il a choisi quoi en faire. Et cette séquence qu'il a décidée, c'est une séquence tout à fait inédite par rapport à tous ses prédécesseurs. C'est-à-dire que François Mitterrand, en 84, avait fait un discours le 6 juin, mais n'avait pas étendu la chose sur 3 jours pour faire 6 discours. Il ne l'a même pas fait en 94, alors que c'était le jubilé. En 2004, pareil, Chirac ne le fait pas, et François Hollande, pardon, en 2014 non plus. Donc, on voit bien que finalement le sujet est, il se, évidemment, il y a un devoir de commémoration et c'est quelque chose de très important cette date.
Oui, lui il dit, moi j'ai pas choisi le calendrier.
Oui, mais il choisit.
Il choisit
de faire. Il aime les commémorations de toute manière. Ça,
il choisit de faire 6 discours en quelques jours quand même, plus une interview. Enfin, il faut pas être dupe. De toute façon, quand même, personne ne l'est, je pense. Tout est calculé pour ces élections. Moi, je trouve ça assez choquant, à vrai dire. Je pense qu'instrumentaliser Zelensky en ce moment, c'est assez choquant.
Mais c'est du jamais vu, ça, Christophe Barbier. Vraiment, il y a des chefs d'État qui ont pris la parole avant lui, proche des élections électorales.
Bien sûr. C'est
des élections électorales.
Des élections d'échéance électorale, pardon. Il est 23h39.
C'est évidemment un grand, grand, grand classique. On pourrait citer, par exemple, Valéry Giscard d'Estaing, Verdun sur le Doubs, avant des législatives, comme président. Il envoie un message très clair à la population.
Faire le bon choix.
Si vous voulez le programme commun avec les socialo-communistes, vous l'aurez, faites le bon choix. Ça a sans doute sauvé sa majorité. On lui a pas reproché de s'être comporté en président qui descendait dans la mêlée. C'était sa fonction. Ce qui était vrai, c'est que Emmanuel Macron use et abuse d'une parole qu'il veut performative. Et qu'il parle 6 fois quand Chirac ou Mitterrand parlaient 1 fois, ça me paraît à peu près la juste proportion dans toutes les actions médiatiques qu'il commet. Il est vrai aussi que l'époque n'est plus la même, qu'elle est surmédiatisée, qu'il faut saturer tous les espaces. On n'a pas vu non plus François Mitterrand discuter avec McFly et Carlito à l'Élysée. Eh ben Macron l'a fait. Autre temps, autre mœurs. Est-ce que c'est efficace? Il y a deux aspects. Il y a l'aspect géopolitique. Ce soir a été publié le texte qui s'appelle Déclaration de Normandie, signé par tous les pays qui étaient associés à ces commémorations. C'est une suite d'engagements, c'est une sorte de manifeste, premièrement, deuxièmement, il y a une dizaine de points. C'est le descriptif à la lueur du sauvetage des démocraties en 44 de ce qu'il faut faire aujourd'hui face à la Russie. Tout s'applique à l'Ukraine et à la défense de ce que pourraient être demain les pays attaqués par la Russie, et tout est enraciné dans l'Europe des démocraties se libérant du nazisme. Donc, est-ce que c'est un abus de l'histoire ou est-ce que c'est une manière de s'appuyer sur un passé auquel il faut réfléchir pour gérer un présent et un futur qui sont périlleux? Ça serait lui faire un mauvais procès que de dire qu'il n'y a pas une cohérence intellectuelle. Et donc, associer l'Ukraine aujourd'hui, parce que le danger aujourd'hui pour l'Europe démocratique, c'est le poutinisme, ça me semble assez logique. L'autre ricochet, c'est de terminer en disant « dimanche, votez comme il faut ». Et là, à mon avis, si la ficelle existe, elle est grosse et elle ne marchera pas.
Moi, je dirais que je suis pas exactement blackballée par l'ambassadeur de France à Londres, tellement il déteste les choses que j'écris sur Emmanuel Macron. Mais vraiment, on ne veut pas me soupçonner de macronisme.
Je rappelle que vous êtes correspondante du Daily Telegraph.
Je suis éditorialiste dans mon journal, c'est-à-dire qu'en plus on me demande d'avoir une opinion et elle est négative. Elle griffe souvent, pas tout le temps, mais elle griffe. Et là, je pense qu'effectivement, il était dans son rôle et il avait, alors qu'on l'a vu vraiment dans toutes sortes de commémorations, on se disait soupe, cheveux, etc. Et non, là, il était plutôt bon. Et c'est pas uniquement à cause de l'Ukraine. Je veux dire qu'il y avait un sens de l'événement. Et le fait aussi que ces élections ne sont pas n'importe quelles élections et que l'Europe, la communauté européenne du charbon et de l'acier, puis le marché commun et puis, toutes les itérations qui amènent à l'Europe aujourd'hui, elles sont arrivées à cause de la Deuxième Guerre mondiale. Et par conséquent, je pense que c'était vraiment le moment d'en parler.
Et ces interventions intempestives, j'allais dire, on rappelait le nombre d'interventions d'Emmanuel Macron ces derniers jours, est-ce qu'elles peuvent avoir un impact sur ces élections, un impact positif pour le camp présidentiel?
Je ne me prononcerai pas sur la pertinence politique, mais je constate que c'était nécessaire qu'il rende hommage au maquis de Saint-Marcel hier. Je suis désolé, mais on a oublié les premiers Français. Ce sont les SAS français qui sont arrivés à Saint-Marcel. Et s'il n'y avait pas eu le maquis de Saint-Marcel, le sacrifice des Bretons à Saint-Marcel, il fallait l'honorer, ce qui n'avait pas été réellement fait. La problématique, effectivement, des 20 000 civils normands morts sous les bombardements. Ça reste dans la mémoire collective. Donc, après, ces séquences-là, au 80e anniversaire, il était nécessaire. D'ailleurs, on peut regretter que dans les anniversaires précédents, ces pages-là étaient un peu passées sous silence, mais il y avait d'autres raisons, puis il y avait encore beaucoup de vétérans. Mais c'est vrai que je parle sur la séquence historique et militaire, il y avait un certain nombre d'hommages qui étaient absolument nécessaires, et si on ne l'avait pas fait cette année, on ne l'aurait jamais fait.
D'un point de vue politique, en tout cas, cette séquence ne va pas avoir ne peut pas changer les dynamiques. Ça ne va pas renverser les dynamiques. Si l'objectif du chef de l'État était de faire baisser le Rassemblement national, qui aujourd'hui a un niveau complètement inédit, qui dépasse les 30%, c'est-à-dire le dernier précédent à ce niveau.
32% dans le sondage Ipsos aujourd'hui.
Voilà. Le précédent, c'est les Européennes de 84 avec la liste de Simone Veil, mais qui était une liste de coalition. Donc c'est quasiment inédit. Si c'était le but du chef de l'État, il n'y parviendra pas. Parce que cette logique de dramatisation qu'il a utilisé, encore une fois, en 2017, en 2017, en 2022, ne marche pas sur l'Assemblée nationale, sinon il ne serait pas au niveau où il est. Et on le voit d'ailleurs dans la campagne de Jordan Bardella, qui a été une campagne plutôt prudente, plutôt en retrait, presque de rentier, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de prise de risque, il n'y a pas eu quelque chose de nouveau idéologiquement ou mis dans l'atmosphère. Les deux moteurs du vote Bardella aujourd'hui, c'est l'anti-macronisme. Parce que après 7 ans au pouvoir, le chef de l'État suscite une forme de colère et ces élections précédentes ont fait du Rassemblement national le premier réceptacle de la colère contre le chef de l'État. Il y a un deuxième moteur qui
d'ailleurs,
est...
Marine Le Pen dit hier sur BFM TV, plus il parle, plus il nous donne des voix. Donc qu'il y a et qu'il continue, Emmanuel Macron.
En tout cas, plus il parle, plus il mobilise les électeurs du Rassemblement national. Je ne sais pas s'il lui en apporte de nouveau, mais il y a un second moteur qui sont que les totems du Rassemblement national. Aujourd'hui, du fait de l'actualité, plus ou moins en adéquation avec les principales préoccupations des Français. Quand vous regardez le dernier sondage Ipsos sur les préoccupations des Français, premier pouvoir d'achat, deuxième immigration, et troisième, même si c'est décorrélé, c'est insécurité. Qui sont des totems depuis 50 ans du Rassemblement national.
Et à ces trois premiers I, inflation, immigration, insécurité, s'est ajouté depuis le 7 octobre islam. Nouvelle crise du rapport, de la crainte du terrorisme, de la relation tendue et de l'importation d'un conflit en France.
Après, il peut peut-être avoir un effet, c'est-à-dire que à susciter ce vote utile, cet effet drapeau en disant votez pour nous puisque nous incarnons l'Europe et l'Europe vous protège, il peut peut-être mobiliser ces électeurs qui lui ont tourné le dos à un moment suite à la loi immigration en allant chez Glucksmann ou suite à la réforme des retraites, en allant voir un petit peu ailleurs. Il peut du coup relever
parce que l'atmosphère des derniers jours, on sait qu'elle compte, d'autant que, et vous le rappeliez, ils sont 7%, c'est ça, à ne toujours pas avoir pris de décision et à dire...
Ils iront voter, ils savent
pas
pour
qui. On ira voter dimanche matin, mais on ne sait pas encore pour qui.
On en connaît tous, d'ailleurs, dans nos entourages.
Mais je pense qu'il y a une vraie question aussi derrière, je dirais, ce qu'abordait Christophe tout à l'heure, qui me paraît vraiment important, au-delà, je dirais, des choix politiques sur lesquels je ne veux pas revenir. C'est effectivement, qu'est-ce qui définit aujourd'hui ce qui nous est commun ? Et y compris, je dirais, dans un moment comme celui-ci, comme en 1940, qui est un moment de guerre, qui est un moment dramatique, qu'est-ce qui véritablement, sur ces sujets-là, nous rassemble, nous divise ou entraîne des confrontations ? Je n'ai pas nécessairement une réponse, et probablement certainement pas si j'en avais une réponse très optimiste à cette question, mais je pense que c'est ça. Et donc la charte, d'ailleurs signée par d'autres États à laquelle Christophe faisait allusion tout à l'heure, est un vrai sujet. C'est-à-dire, est-ce que nous allons percevoir maintenant, nous percevons, est-ce que nous allons percevoir mieux dans les années qui viennent, la guerre russe contre l'Ukraine comme ce moment charnière ou non ? Je vois quand même malgré tout que les sondages montrent que vous avez une majorité de Français qui aujourd'hui comprennent la réalité du danger russe, y compris d'ailleurs dans une partie de l'électorat d'extrême droite. C'est assez curieux, plutôt rassurant d'une certaine manière, même si ce n'est pas leur motivation principale de vote. Ça, on est tout à fait évident. Ils ne vont pas se déterminer
en fonction de ça.
Sinon, ils ne voteraient pas pour l'extrême droite.
Mais voilà,
je trouve qu'on a cette question, je la trouve mortelle, parce que on est dans les mêmes questions, les mêmes problématiques qu'en 40-44.
Je suis désolé, je ne suis pas du tout d'accord. Avec...
Non, mais c'est bien de ne pas être d'accord.
Je ne pense pas qu'on puisse comparer la situation actuelle pour ce qui est de la France avec 1940, et surtout, en tout cas, pas en période électorale. C'est-à-dire que cette manière que certains ont de dire « Bon alors, qu'est-ce qui nous rassemble ? Sur quoi nous nous retrouvons ?» etc. Pour en fait aboutir à une espèce de consensus dont l'issue est de voter pour le parti central.
Mais c'est pas cela, c'est pas de ça qu'il s'agit. La question, c'est le consensus plus largement. Je ne parlais pas dans la perspective électorale et dans le contexte électoral.
D'accord.
Justement, je dis ceci comme Christophe l'a fait tout à l'heure, les deux, justement.
Au niveau européen, heureusement, on sait quand même à peu près ce qui nous rassemble, je l'espère. La défense de la démocratie, la défense du droit. Mais d'ailleurs, ça a été, moi, je considère que ça a été écorné à de nombreuses reprises ces derniers temps. L'autoritarisme de certains commissaires européens et de certaines législations européennes, à mon avis, elle dégoûte aussi des gens de l'Europe. Ça, c'est un autre sujet. Mais là, les velléités de dépenses publiques et d'emprunts au niveau européen qui sont exprimées par Macron et par Valérie Hayer, qui a fait un tweet en promettant 1 000 milliards d'euros d'investissement, 1 000 milliards d'euros de dépenses publiques, en réalité. Donc, c'est-à-dire qu'après avoir ruiné la France au niveau national, on va maintenant ruiner l'Europe au niveau fédéral. C'est formidable. Ça, c'est quand même un truc dont on a tous très envie. Des impôts européens, des dépenses européennes et une dégradation de la note peut-être des pays européens. Donc voilà, moi je me méfie de ces consensus. Je pense que ça n'est pas comparable. Et franchement, je n'aime pas et je maintiens que c'est probablement, à mon sens, ce qu'essaye de faire là Emmanuel Macron, c'est l'étouffement du débat. Il n'y a pas de débat. Les dangers sont trop graves. Donc un coup le danger, c'est le Covid. Un coup le danger, c'est l'extrême droite. Un coup le danger, c'est la Russie. Un coup le danger, c'est la crise climatique. Donc c'est tellement grave que on n'a plus le droit de débattre. Il faut tous se ranger derrière le chef de l'État et ses candidats. Je suis désolé, non. J'estime que la France, on peut encore être un pays dans lequel il y a des controverses et des gens qui pensent par eux-mêmes. Et cette espèce d'étouffement du débat par la peur, moi, c'est quelque chose qui, j'avoue, me saoule. Clairement.
Ça vient du cœur.
Oui, très vite. Enfin, je voudrais quand même qu'on retienne cette journée du 6 juin. Bon, bien sûr, le débat politique est absolument indispensable, mais en fait, ce qui s'est passé avec l'hommage aux vétérans, je crois que ça doit transcender tous les clivages politiques. On a vécu des séquences d'une émotion exceptionnelle de voir ces vieux hommes, ces vieilles dames qui, il y a 80 ans, voilà, se sont battus pour nos libertés. Et ces images-là, moi je crois qu'elles transcendent tous les clivages politiques, tous les disputes. Et pour moi, effectivement, c'est ça ce qu'il faut retenir de ce 6 juin. Bien entendu, après, il y aura le débat politique qui est légitime.
Je voudrais appuyer ce que vous dites. Nous sommes de plus en plus un pays sans mémoire. Et avec une espèce de mépris pour ce qui s'est passé dans l'histoire, et d'ailleurs une disparition de l'enseignement de l'histoire trop souvent. Et s'inscrire sur le temps long et s'inscrire sur finalement un sursaut qui a fini par arriver et duquel est né une Europe démocratique, quelles que soient les choses qu'on peut reprocher à l'Union européenne, et il y en a plein qu'on peut reprocher, c'était important. Rappeler la notion de sacrifice qui est presque obscène dans l'essentiel de la culture populaire aujourd'hui, ça n'est pas totalement, quelque chose de bénin, c'est quelque chose d'important.
Et vous faites bien de rappeler effectivement l'émotion qu'on a tous ressentie. Alors pour le coup, je crois que ça a transcendé
tout à fait
tous les partis politiques.
On aura deux séquences extrêmement émouvantes début de semaine prochaine, qu'il ne faut pas oublier. Alors, il y aura bien sûr les résultats des élections, mais Tulle, les 99 pendus de Tulle, et Oradour-sur-Glane. Je crois que ça doit être largement dépassé par les querelles politiques qui sont légitimes dans un État démocratique.
Et moi, je reviens juste aux querelles politiques un instant, si vous le permettez, avec un passage qu'on n'a pas commenté. Emmanuel Macron qui dit, quand les journalistes lui posent la question... quelle leçon tirera-t-il en cas de fiasco aux élections européennes, une deuxième ou une troisième place potentiellement? Il a un message un peu énigmatique, il répond « j'entends toujours les messages ».
J'entends, mais je change pas de direction. Cette phrase-là, c'est circuler, il y a rien à voir. Il y aura rien à voir lundi matin dans la vie politique nationale, selon Emmanuel Macron. Pas de remaniement majeur, pas de changement de Premier ministre, pas de dissolution. Ce sont des élections européennes, elles seront terminées dimanche soir. Si Valérie Ayé finit troisième derrière Glucksmann, ce qui n'a été le cas pour l'instant dans aucun sondage, ça sera difficile pour lui d'éviter la crise et la tempête politique. Si les sondages sont à peu près ce qu'on nous donne pour l'instant, c'est-à-dire Valéry y est deuxième, loin derrière Bardella, il pourra toujours dire passons à autre chose. Les Jeux Olympiques et puis les grands chantiers de réforme. Le rendez-vous n'en sera repoussé que de quelques mois. À l'automne, sur le vote du budget, le risque d'une motion de censure déposée par le groupe Liotte ou le groupe LR est majeur. Si le gouvernement Attal est renversé par une motion de censure, soit le président ne dissout pas, c'est-à-dire qu'il se couche, il n'est plus président, il est en cohabitation, il pactise, il transige, soit le président est gaullien, il dissout, et on va vers des législatives qui seront autrement plus périlleuses que les européennes.
Est-ce
pour lui.
Que ça peut être la fin du macronisme, si vraiment il y a un... échec. Mais voilà, il y a la petite musique, c'est la fin d'un mot.
En tout cas, c'est la fin d'une certaine façon d'un cycle avec Emmanuel Macron, parce que c'est la dernière élection nationale avant la prochaine présidentielle et constitution oblige, le chef de l'État ne pourra pas se présenter pour un nouveau mandat. Donc
c'est le début de la fin.
Très probablement le 10, 11, 12 juin, on va avoir le début de la guerre de succession.
Exactement. Merci beaucoup. Merci à tous les six. Merci d'avoir commenté à mes côtés cet entretien d'Emmanuel Macron. Je me fais gronder dans l'oreillette. Il faut rendre l'antenne. Très bonne nuit sur BFM TV.